Bonjour, je suis Julie Gertin et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast Découvre, Ose et Deviens, le podcast qui éveille ta curiosité et part à la rencontre de métiers passionnants et inspirants. Il existe plus de 11 000 métiers, alors si on partait à la rencontre? Aujourd'hui, je reçois Stuart, sportif de haut niveau. Dans l'épisode de Stuart, c'est le premier d'un triptyque sur le sport de haut niveau. J'avais envie de traiter le sujet selon trois angles de vue différents. Celui d'un sportif de haut niveau, celui d'un entraîneur, ou appelé aussi coach, et celui plus récent et moins systématique de préparateur mental. Voir un peu quel rôle chacun tient, quelle vision ils ont de l'autre, et comprendre un petit peu leur complémentarité. Alors l'idée était bien sûr de démarrer par le sportif qui est au centre de tout, celui sans qui eh bien, la performance n'existe pas. C'est donc Stuart qui s'y colle en premier. Stuart Dutamby a un parcours de dingue. Il était clairement fait pour faire du sport de haut niveau, hein, et dans chaque sport qu'il touchait, le foot, la natation et d'autres encore, il était immédiatement repéré. Mais c'est dans l'athlétisme qu'il a choisi de percer, et un an après avoir démarré sérieusement, eh ben, il est sélectionné en équipe de France, et 3-4 ans après, eh ben, il se retrouve au JO de Rio, tout simple. C'est pas fou ça, non? Il enchaîne alors les compétitions et les médailles, et court à côté des plus grands, hein, foulant la piste à côté d'Usain Bolt et d'autres mastodontes. Dans cet épisode, nous allons beaucoup parler avec Stuart du mental d'acier nécessaire pour s'entraîner, pour repousser les limites de son corps chaque fois un peu plus loin, pour gérer aussi le stress énorme d'un entraînement intensif de plusieurs mois où tout se joue en moins de 10 secondes, de l'équilibre compliqué à trouver entre la performance et le plaisir, avec sa vie personnelle, ses études qu'on met souvent de côté pour être au top. Et puis de l'indispensable préparation à la reconversion qui arrive très tôt dans la carrière d'un sportif de haut niveau. Cette vie d'après, sans adrénaline, mais avec les contraintes du quotidien en plus. Stuart, mille merci pour tout le temps que tu nous as consacré avec Kylian et moi, puisqu'on était deux à t'interviewer, et de m'avoir aussi si chaleureusement accueilli dans ta salle de sport pour coach, Atelier Move, sans même me forcer à faire un seul squat ou l'exercice de la chaise. Je crois que tu as très vite cerné à qui tu avais affaire. Si l'épisode vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec un petit bonus 5 étoiles sur Apple Podcasts et bien sûr le partager à votre entourage. Je vous souhaite une très très bonne écoute de cet épisode.
Ben, salut Stuart, un grand merci de nous accueillir dans ta salle de coaching en plein cœur de Paris. Alors je dis nous, c'est pas parce que j'ai pris le gros melon, mais je suis ravie en fait aujourd'hui de te co-interviewer avec Kylian qui est à l'autre bout de la France. Kylian, je te présente en quelques mots. Tu es un jeune étudiant de 20 ans en L3 au STAPS de Font-Romeu. Tu es passionné d'athlétisme et de sport en général. Alors évidemment, Kylian, tu n'es plus exactement un ado, ce qui était le deal de départ. Mais je suis sûre que tu nous permettras d'avoir une bonne vision de toute la nouvelle génération de futurs travailleurs. En tout cas, on a un sacré écart tous les deux, donc le deal est quand même à moitié rempli.
Bonjour Julie.
Stuart, pour te présenter en quelques mots, tu es donc sportif de haut niveau et plus particulièrement sprinter. Alors pour les novices comme moi, d'ailleurs, je t'avais posé la question, qu'est-ce que ça veut dire sprinter? Donc, il s'agit donc des disciplines de 100 mètres, de 200 mètres et de 4 fois 100 mètres.
Exactement, c'est ça. 400 mètres aussi parfois, on peut les appeler des sprinters aussi.
Ah oui, c'est des gros sprinters.
Des gros sprinters.
Ok. Et tu as été plusieurs fois médaillé, donc à des compétitions européennes et mondiales. Tu as même eu l'immense chance de participer au JO de Rio. Voilà. Alors, cette petite présentation faite, Stuart, si tu es prêt, je te propose de démarrer tout doucement. En reportant quelques années en arrière, et je serais très curieuse que tu nous décrives quel petit garçon tu étais et quel métier tu rêvais de faire.
Alors j'ai une belle anecdote du coup pour commencer, parce que c'est une bonne question. Pour avoir un bon descriptif du petit Stuart, quand j'ai 4 ans, je regarde les Jeux de Sydney, et à ce moment-là, je me dis... Tiens, ce serait pas mal de faire sportif de haut niveau. Donc déjà, je savais que je voulais faire sportif de haut niveau. Ça, c'était en tout cas un but, peu importe le sport. Je voulais faire du sport et de haut niveau. Et donc du coup, en fait, moi, je rentrais de l'école. Je rentrais en courant, j'allais à l'école en courant. À l'école, je courais. Dans la classe, je courais. Tout le temps, toute la journée, je faisais de la natation. Du coup, ma mère m'a mis à la natation très très jeune parce qu'elle sentait qu'il y avait une énergie qu'il fallait canaliser. Et donc, du coup, toute ma vie, là jusqu'à mes 27 ans aujourd'hui, c'est faire du sport tout le temps. Et donc en fait, c'est ce que je...
C'est fou, c'est ces points communs qu'on a, c'est incroyable. Non, je pense que t'en as plus avec Kylian sur ce coup-là.
Mais donc du coup, c'est vraiment ça. Le petit, je pense que la meilleure description du petit Stuart, c'est un enfant qui est passionné de sport et qui vit que pour le sport. Donc en fait, j'ai vraiment fait ça toute ma vie. Je savais que je voulais faire du sport et j'ai eu la chance d'aller jusqu'au bout de mon rêve, en tout cas.
Et justement, est-ce que tu peux nous décrire un peu ton parcours qui t'a amené jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, et tous les championnats que tu as pu...
Rapidement, mon parcours, c'est... je commence par la natation, ma mère me met bébé nageur, donc très rapidement je nage à vite. À l'âge de 10 ans, je continue la natation, là je suis passionné par Laure Manodou, Alain Bernard, tout ça, donc je m'entraîne déjà avec des adultes alors que j'ai que 10 ans, donc des entraînements assez intenses, 3 fois par semaine, voilà, j'ai déjà une bonne nutrition à la maison, on fait vraiment attention à tout. Et du jour au lendemain, je me dis que j'aimerais bien essayer le foot, donc je fais du foot et je suis directement recruté par le Paris Saint-Germain. Donc je fais du foot au Paris Saint-Germain, ça se passe super bien, et puis je côtoie aussi des joueurs qui maintenant sont en Ligue 1. Et puis ensuite on part habiter à l'étranger, donc on a passé un peu par Londres, par la Belgique. Là je fais un petit peu moins de sport, mais en Belgique je me lasse un petit peu du foot, donc j'ai 18 ans et parce que le milieu me correspond plus. Et puis donc je vais sur Google Maps, cherche une piste d'athlétisme près de chez moi, je prends mon vélo un mercredi, je m'inscris, je me mets à courir. Ils se disent, tiens, lui, il court assez vite. On va s'en occuper un petit peu. Et puis, même pas un an après, je suis en équipe de France junior. Et puis après, ça a explosé tout seul, quoi. J'ai continué à m'entraîner. Mais vraiment, c'est que de la passion, quoi. Tout le temps, que de la passion. Et quoi que je fasse... Mais après, je saute aussi plein d'étapes où je fais du tennis. Tout de suite, on veut me mettre en centre de formation. Je fais du judo. Tout de suite, on me dit, il faut qu'il reste au judo parce qu'il est bon. Badminton, c'est pareil. J'ai touché à tout. Et je pense que c'est peut-être ce qui décrit aussi tous les athlètes que j'ai pu rencontrer, c'est qu'on peut toucher un peu à tous les sports et on excelle assez rapidement. C'est la maîtrise du corps qui doit être bonne.
Mais justement, si tu excelles dans beaucoup de choses, ou en tout cas si tu es intéressé par plein de trucs, pourquoi tu as choisi l'athlétisme plus qu'une autre discipline? Tu vois, tu aurais pu t'enlacer, tu aurais pu passer à autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui a fait que cette discipline plus qu'une autre t'a plu?
Alors, c'était en venant du foot, peut-être que c'était la partie individuelle qui m'intéressait un petit peu, pouvoir me concentrer sur moi et pas sur une équipe, même si cette partie-là du sport et va me rester, et même dans l'athlétisme. J'avais 18 ans, je me suis dit, c'est le bon sport pour faire les Jeux. C'était le bon moment.
Ah oui, d'accord.
18 ans, je me
disais. Donc
bon
c'était
sport.
Vraiment dans une logique, quand même, derrière de compète. Hein.
Si c'était du ping-pong, je serais parti sur du ping-pong pour aller. Peu m'importe.
D'accord.
Et le ping-pong, c'est un sacré sport en plus, donc je peux prendre aussi un autre exemple. Si c'était du hockey pour faire les jeudis, peu m'importe. Je serais parti.
Mais alors attends, tu t'es dit, je vais choisir l'athlétisme parce que je sens que je vais plus facilement exceller, ou tu t'es dit aussi. Il y a une place à prendre parce qu'il y a peut-être moins de gens
parce que
à ce moment-là.
Exceller. Parce qu'en fait, bon, honnêtement, tout le monde avait remarqué depuis que j'ai peut-être 3 ans, 4 ans que je courais très vite. Donc tout le monde m'a toujours dit fais de l'athlétisme. J'ai pas voulu essayer parce que le foot ça marchait plutôt bien. Mais je me suis lassé assez rapidement et puis je regarde pas du tout le foot en fait. Donc c'était assez surprenant d'ailleurs que ça marche plutôt bien alors que je regarde pas le foot. Je connaissais même à peine les joueurs. Et en fait, j'ai testé l'athlétisme. Ça a marché tellement rapidement que je me suis dit là,
il se
passe quelque chose. Il faut que je reste là. Il faut que je continue à développer mes qualités d'athlète. Et en fait, là, je suis resté là jusqu'à maintenant, en fait, et ça a bien fonctionné.
Et alors, tu disais tout à l'heure que ta maman, tu faisais vachement attention à la nutrition, etc. C'est une famille de sportifs,
t'as
des frères et sœurs qui sont aussi méga sportifs et tout ça.
Alors, j'ai eu mon petit frère à l'âge de 11 ans, donc je suis resté seul assez longtemps. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que l'aspect individuel m'excite un petit peu, parce que quand on est enfant unique pendant un certain temps, rester seul, ça nous dérange. Pas tant que ça finalement. Et ma mère faisait un peu d'athlétisme, un peu de sport quand elle était plus jeune, pas en haut niveau. Mon père pas du tout, mais en fait ils ont toujours fait partie de ce projet. Ils ont très vite compris qu'il fallait que je fasse du sport pour me canaliser justement. Mais ils ont aussi compris que j'avais de grosses qualités peu importe le sport, et donc du coup en fait ils m'ont toujours suivi à 100%, et donc ça m'a beaucoup aidé honnêtement.
Ils ont accepté justement quand t'as abandonné le foot, tu sais, parfois en tant que parent, alors Kylian là je pose des questions de vieille, tu vois, justement, mais en tant que parent, tu te dis quand tes enfants ils zappent un peu, tu vois, de sport ou d'activité, tu te dis zut, il est pas persévérant, zut, il y a un premier obstacle, il arrête, tu vois, tu te poses ce genre de questions. Est-ce qu'ils t'ont suivi justement
ils m'ont suivi directement, parce que en fait, alors pour faire un petit descriptif, par exemple, si je faisais du judo, à côté j'avais toujours la natation. Je faisais aussi du tennis de temps en temps le week-end. J'allais, quand je faisais du foot, j'ai fait une petite transition avec. Enfin, je continuais encore la natation aussi. Et puis en fait, quand j'ai fait de l'athlétisme, c'est parce que juste le foot, ça me lassait. Et puis, ouais. Et puis c'était pas un milieu qui me correspondait, même si en Belgique le milieu est un petit peu différent qu'en France, mais ça me correspondait pas tant que ça. Et en fait, mes parents ont toujours voulu que je fasse de l'athlétisme parce que je courais vraiment vite. Et donc du coup, ils m'ont toujours dit, fais de l'athlétisme depuis que j'ai peut-être 12 ans, 10 ans. Et donc du coup, là, quand je me suis lancé là-dedans, okay. Ils étaient partants, mais à 2000%, quoi. Ouais. Donc en fait, mon père venait me voir à l'entraînement de temps en temps. Ça, par contre, ils m'ont jamais poussé, quoi. Alors ils m'ont jamais dit, mon père sur un terrain de foot, on voit un peu les clichés des parents qui
je
sont
vois très sous, bien.
Qui,
ouais.
Moi, c'était celui qui avait les mains dans les poches derrière le but et qui se cachait, quoi. Limite, il voulait vraiment pas crier. Et puis quand je marquais un but, alors je fais le geste, mais il faisait yes discrètement et puis voilà, il se cachait. Il est très discret comme, ouais. Comme monsieur.
Donc ils t'ont pas mis de pression et par
jamais,
rapport à une
jamais,
réussite,
jamais,
quoi.
Jamais. Ils m'ont toujours laissé tranquille. Tu veux faire du judo, va tester le judo, fais ce qui te plaît. Je pense que c'était aussi pour se dire, tant qu'il se canalise un petit peu et qu'il arrête de courir partout, mais ça fonctionnait, quoi. Donc en fait, ils m'ont toujours soutenu, aucune pression. Et même l'année des Jeux, même là, si je veux un petit peu arrêter l'athlétisme ou mettre un peu de côté le sport, ils ne me mettront jamais de pression.
D'accord, ils toujours, font confiance, quoi.
Ouais, ils me font confiance à 100%. Et ça, je pense que ça aide aussi beaucoup.
Et c'est génial. Mais ça veut dire que cet esprit à l'inverse de compète et de réussite, c'est toi qui te l'es forgé, quoi.
Ouais, je sais, peut-être qu'on y reviendra, mais ça, c'est important en plus.
Ouais, on a des questions avec Kylian justement là-dessus. Et alors, une autre question, c'est que. Pour arriver à ce niveau-là, il y a quand même une pratique assez intensive du sport. Ouais. Comment tu as concilié les études, comment, tu vois, quel parcours de formation tu as pu avoir? Est-ce que tu avais un parcours particulier ou tu avais la vie collégienne normale, lycéenne normale
normale.
En plus? Ah, donc tu n'as pas eu de parcours
Absolument pas. Alors, j'ai eu la vie collégienne et lycéenne classique. À ce moment-là, j'étais donc en Belgique, en école européenne. Donc, je faisais une heure de quart le matin pour aller en cours et une heure retour. J'habitais à Anvers à ce moment-là. Et donc, je rentrais à 18h comme tout le monde des cours et je prenais directement ma voiture ou mon scooter et j'allais à l'entraînement. Et donc, je rentrais chez moi à 21h et puis je faisais mes devoirs. Et le lendemain matin, j'étais reparti à 6h à l'école. C'est tous les jours comme
ça. Sacré rythme quand même.
Ouais,
parce que t'avais
bon
pas
rythme.
D'aménagement de tes cours
non,
scolaires.
Non, il y avait pas d'aménagement. Je faisais que 3 séances par semaine. J'avais pas de musculation au début, donc je connaissais absolument pas. Le club de Lille m'a recruté parce que c'était près de la frontière et il m'avait remarqué. Donc, du coup, je suis parti faire les mercredis. Je faisais des musculations à Lille. Donc, je faisais Anvers, Mol. Donc, il y avait une heure de quart aller-retour. Je prenais ensuite ma voiture et j'arrivais à 15h à Lille. Je faisais une petite muscu d'une heure et demie. Je revenais à Anvers le soir. Voilà, complètement barré, mais je voulais faire du sport, quoi. Donc, peu importe ce que je faisais.
Sacrée motivation, quand même.
Bonne motivation. Et sinon, le parcours classique. J'ai passé mon bac comme tout le monde. J'ai pas eu d'aménagement. Et à ce moment-là, en fait, de toute façon, mes profs, j'ai encore une autre anecdote d'ailleurs. Je pourrais peut-être la ressortir plus tard, mais elle est pas mal. C'est que mon prof d'économie nous, en terminale nous demande bon, qu'est-ce que vous voulez faire? C'était un prof écossais, économie typique. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et puis moi, je lui réponds quand c'est mon tour, moi, je vais faire les jeux, quoi. C'est les jeux. Et puis il me dit mais c'est quand les prochains? Je dis c'est 2016. On était en 2014 à ce moment-là. Et puis lui, bon, économie, il est dans les statistiques, il est très rationnel. Il me dit 2016, c'est pas possible. C'est quand les prochains? 2020? Bon, peut-être 2020. Et puis il zappe. Bon, lui, en gros, lui, il est encore un compte à n'importe quoi.
Ouais.
Et 2016, j'y étais finalement. Donc ça, j'ai une petite pensée pour lui. C'était pas méchant. Parce
mais
que
c'est ça qui est incroyable. Attends, parce que moi, j'aimerais bien quand même. Il y a un moment donné où ça s'est intensifié pour que tu puisses préparer. On va reparler, mais j'ai juste besoin du comprendre.
Et c'est le jump. Là, quand on est. Ensuite, quand je quitte la Belgique, parce que j'ai passé mon bac, en fait, on a attendu que je fasse mon bac pour ensuite partir ailleurs. Et donc, mes parents sont partis habiter au Ghana. Donc, je les ai suivis quelques mois. Et puis après, je suis revenu juste en France pour l'INSEP, parce que j'ai été contacté par l'INSEP, par la Fédération Française d'Athlée, pour rentrer à l'INSEP. Et puis j'ai sauté sur l'occasion, parce que depuis que je suis tout petit, depuis que j'ai vu un reportage de l'INSEP, à peut-être 4 ans, 6 ans, je voulais rentrer à l'INSEP, peu importe le sport.
Donc, magique. Hein.
Ouais. Je voulais rentrer à l'INSEP. Ma mère avait même collé une photo de l'INSEP dans ma chambre avec un drapeau du Brésil, pour vous dire un peu. Elle est très feng shui, tout ça. Donc, les ondes positives, c'est hyper important pour elle. Elle m'avait mis, dès qu'on a appris qu'il y avait les Jeux à Rio, je sais même pas si je faisais encore de l'athlétisme, mais elle avait mis un drapeau du Brésil, parce qu'en plus je suis fan du pays depuis que on y était allé quand j'étais plus petit. Je suis fan du pays, donc elle s'était dit là, il y a un truc à faire. Donc elle avait mis l'INSEP et le Brésil dans la chambre.
D'accord, donc après t'as été interne à l'INSEP, c'est-à-dire que tu logeais là-bas.
Ouais,
Kylian, t'as déjà visité l'INSEP?
Alors moi j'ai eu la chance. Je suis allé à proximité de l'INSEP devant les barrières, mais j'ai jamais mis les pieds encore à l'intérieur. ça a toujours été un rêve pour moi. Et malheureusement, pour l'instant, je suis toujours devant les barrières.
Bon, parce que j'ai eu la chance, moi, tu sais, d'y aller, Kylian, pour l'interview là, de Stuart fait partie d'un triptyque avec préparateur et entraîneur. Et du coup, j'ai interviewé les deux Cyril, qui sont un préparateur et l'autre entraîneur, à l'INSEP. Et incroyable, effectivement, tu rentres dans ces bâtiments, t'as des salles à l'intérieur, t'as les portraits aussi des athlètes. Hein, je trouve que c'est magnifique, ça. T'arrives pour rentrer dans les salles, notamment de gym. T'as un long couloir et t'as toutes les portraits de tous les athlètes qui vont partir ou qui sont partis.
Même
enfin,
à l'extérieur
c'est génial.
Et tout ça, ouais. On rentre avec le portrait de Christine Aron, Diagonal.
Stuart, peut-être que tu peux nous dire, mais je pense que ça doit être motivant d'être à l'INSEP, de voir toutes ces installations, tous ces sportifs, toutes ces photos.
Mais en fait, il y a une vraie émulation et il y a un sentiment de confort finalement. On a l'impression en fait d'être quand même compris parce que c'est vrai que je pense que ça doit sûrement parler à beaucoup d'athlètes. Mais quand on est plus jeune, on dit toujours que le sport c'est pas un métier et qu'on pourra pas en faire notre métier. Et sauf que là, on arrive dans un environnement où c'est le métier de tout le monde. Donc en fait, finalement, on y est vraiment bien. Et pour te dire, alors il y a une petite supérette à l'INSEP, il y a le self, il y a de quoi laver son linge, il y a tout. Moi, mes parents qui habitent à l'étranger, je peux te dire que ça m'est déjà arrivé de passer un mois sans jamais sortir de l'INSEP, quoi. C'est vraiment, ça devient la maison.
Ouais,
en plus,
c'est
dans le bois de Vincennes. Je me lève le matin, j'ouvre mes rideaux, je vois la piste. Je sais que j'ai la muscu. Donc, même le week-end, parfois, quand je voulais pas sortir, quand tout le monde partait de l'INSEP, moi, j'allais me faire une muscu tranquillement. C'était mon truc du dimanche, quoi. Donc, pour te dire.
Ouais, et puis t'as une bibliothèque. Enfin, t'as tout.
Tu
peux suivre des cours là-bas.
Ouais, on peut suivre des cours aussi, effectivement. Mais en fait, on a vraiment tout, quoi. Donc, c'est vraiment l'environnement parfait. Après, ça peut devenir aussi un peu un danger de rester toujours enfermé là-dedans. Mais quand même, c'est un atout majeur, quoi, de pouvoir avoir l'INSEP à Paris, c'est magnifique.
Ouais, et puis là où je suis d'accord avec Kylian, c'est que tu dois ressentir une telle fierté de faire partie de cet ensemble et de te dire que tu as été repéré et qu'on place en toi un espèce d'espoir et qu'on te donne des moyens pour réussir, quoi. Alors justement, tu disais un truc, c'est une très bonne transition sur on dit toujours qu'athlète, c'est pas un métier. Alors c'était justement ma première question. En quoi justement pour toi, on peut dire que sportif de haut niveau, c'est justement un métier ?
Eh bien, le temps qu'on y passe, qui est conséquent, l'investissement personnel, parfois familial. Il y a un investissement financier aussi qui est énorme. On ne se rend pas forcément compte. Alors, dans l'athlétisme, on n'a pas les plus grosses dépenses, mais il y a quand même beaucoup de sports où il y a des dépenses énormes. Et puis, on est aussi, de toute façon, sponsorisé, on est rémunéré. Donc, en fait, on a vraiment
tous les critères
qui représentent un métier, quoi. Donc, on est vraiment... C'est un métier, quoi.
Et est-ce qu'il y a un moment donné... Alors, tu vas peut-être me répondre à 4 ans. Mais est-ce qu'il y a un moment donné dans ta carrière où tu t'es dit « ça y est, c'est mon métier ». Tu vois, tu passes de la passion au loisir et à te dire non, mais en fait là c'est mon métier.
L'entrée à l'INSEP, peut-être un an après l'INSEP. En fait, honnêtement, c'est quand on commence à aussi faire nos premières sélections en A avec l'équipe de France A, donc senior. Là, ça devient vraiment un métier parce que quand on est chez les jeunes, il y a du monde. Enfin, il y a pas du monde, mais il y a quand même pas mal d'athlètes qui passent chez les jeunes et qui après font pas la transition chez les seniors. Donc quand on fait la transition chez les seniors, en fait là ça devient concret, quoi. Et puis en plus on est à l'INSEP, on est installé, donc en fait c'est tout un enchaînement qui fait qu'on réalise qu'effectivement là c'est un métier. Et puis après il y a aussi les sponsors qui arrivent.
Ouais.
Et voilà, là on prend conscience que ça devient sérieux.
Alors est-ce que tu peux nous décrire s'il te plaît une semaine ou une journée type? Tu vois qu'on essaye de se projeter, que si quelqu'un veut faire la même chose que toi, ma vie va ressembler à quoi?
Journée type d'un athlète, un sprinter, nous on fait 100 mètres, il faut qu'on garde beaucoup d'énergie, donc je sais pas si vous avez déjà vu, mais la démarche, un Usain Bolt typiquement, quand il marche sur la piste, les Américains sont très, ils ont beaucoup, on a l'impression qu'ils ont du temps, quoi. Nous c'est un peu la même chose, on commence un entraînement par exemple, l'entraînement sera à 10h, donc je me lève le matin assez tôt. Moi je suis vraiment du matin, donc à 6h je suis debout, je peux avoir du travail à faire, je m'occupe, je déjeune très très tôt, et puis à 9h je vais sur la piste pour commencer mon échauffement, ma petite routine, je prends mon temps, je m'étire, etc., des mobilisations, ça parlera avec Liane, et ensuite à 10h tout le monde arrive, on commence notre échauffement, le vrai échauffement pour la séance, jusqu'à 11h. 11h, on démarre la séance. Dans le cas où c'est une séance très intense, on a une séance type, ça va être 3 fois 150 mètres. Donc c'est très short, mais c'est très très intense. On a 15 minutes de récupération entre chaque 150 mètres.
Okay.
Donc 15 secondes d'effort, 15 minutes de récupération.
Ouais.
On en fait 3.
Ça serait une semaine de récupération.
Exactement.
Donc je te rassure.
Il nous faut 45 minutes de récupération en général après cette séance-là parce qu'on est complètement vidé énergétiquement.
Okay.
Donc on passe 45 minutes au sol, typiquement. Ça arrive assez régulièrement. On va manger. On retourne à 15h sur la piste pour une séance de musculation qui va durer environ 2h. Et puis voilà, à 17h on a terminé, on passe avec les kinés qui sont sous la piste, qui viennent nous voir, donc un petit massage de 30 minutes pour récupérer de la journée. On fait un peu de balnéo, bain chaud, bain froid, il y a aussi un sauna, il y a un hammam, voilà, donc ça c'est très sympathique. On y reste jusqu'à 19h, 19h30 on va manger. Et là, quand les journées sont intenses comme ça, 21h, 22h, on fait dodo. Et puis c'est reparti le lendemain. Alors, on n'est pas tous les jours sur du bi-quotidien, parce que sinon, on ne tiendrait pas. Il y a des pays dans lesquels ils font du bi-quotidien, donc ils s'entraînent matin et soir. Nous, c'est pas ce qu'on fait. Et c'est pas plus mal, parce que c'est vraiment traumatisant. Mais en tout cas, voilà, trois fois par semaine, c'est ce qu'on fait, avec entraînement aussi le samedi. Et donc, c'est toute la semaine, c'est comme ça. On a très, très peu de pauses, parce qu'en fait, dès qu'on s'arrête de s'entraîner pendant plus de 10 jours, en fait, il y a une vraie perte d'endurance, de vitesse, enfin, les capacités
physiques.
C'est
exactement ce que disait Cyril, c'est qu'à partir d'un certain âge d'ailleurs, il disait ça, que ces athlètes, ça pouvait être compliqué pour eux. Ils arrivent le vendredi, ils sont explosés, mais par contre, ce qui leur fait peur, c'est le redémarrage du lundi, parce que quand ils ont arrêté le week-end, c'est hyper compliqué.
Bah, en fait, on a l'impression, mais là, depuis, enfin, très jeune, de toute façon, ça me le faisait déjà, et j'avais posé la question à d'autres athlètes, et ils ont le même sentiment, c'est que, enfin, le même ressenti. Quand on s'arrête plus de 2 ou 3 jours, on a presque l'impression que c'est néfaste, parce qu'en fait, on a l'impression de rouiller, quoi. Vraiment, c'est la sensation de rouiller, articulairement, musculairement, on a l'impression d'être hyper tendu, et surtout articulairement, et en fait on plus de 2 jours, ça c'est compliqué. Et puis en plus il y a aussi l'envie de juste de reprendre, parfois on est tellement ça devient une drogue,
ça devient une drogue, tout à fait.
Plus de 2 jours on se dit allez, c'est pas possible, il se passe un truc, il faut que j'aille courir, il faut que je m'entraîne, fasse une muscu.
Et alors, est-ce que, à part des entraînements, qu'est-ce que vous faites d'autre? Est-ce qu'il y a d'autres activités sur lesquelles vous êtes accompagné? Tu vois, enfin, il y a bien sûr les cours, j'imagine, parce que tu as quand même à un moment donné un enseignement général. Et après, tu as aussi, est-ce que tu as des cours, je sais pas, de nutrition, de yoga, d'autres activités ou d'autres accompagnements?
Alors, moi, ça, c'est ce que j'ai mis en place de mon côté. Alors, effectivement, on a un suivi, on a un pôle nutrition à l'INSEP qui nous suit, donc on peut y aller une fois par mois pour faire un petit bilan. On n'est pas suivi par contre tous les jours, mais toutes les semaines. On peut avoir un contact direct avec la nutritionniste, hein, c'est tout à fait possible par message. Yoga, moi je me suis mis à en faire aussi en 2016, donc j'en faisais dans ma chambre tranquillement, typiquement le matin, je me faisais un peu, ou le soir, voilà, pour récupérer. Ça m'a fait beaucoup de bien. On a aussi, il y a un pôle accompagnement psychologique ou prépa mental que moi j'ai décidé de faire à l'extérieur, parce qu'à ce moment-là on me l'a proposé, pardon. Donc je suis parti chercher à l'extérieur avec Cyril Fontbonne justement. Mm-hmm.
C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, voilà, c'est grâce à lui.
Exactement. Et ça m'a beaucoup aider, donc en fait voilà, on se voit une fois par mois, mais en fait on a typiquement, en fait tout tourne aussi autour un peu du groupe d'entraînement et de l'entraînement athlétique, donc en fait autour on n'a pas vraiment d'autres centres d'intérêt, si je peux dire, et donc du coup c'est vraiment que athlétisme, quoi. Et puis en plus, alors si on parle scolarité, très rapidement en fait on se rend compte, surtout là sur l'année 2016 où l'année hyper importante, c'est une année olympique, on n'a pas le temps de
là, c'est, tu concentres.
C'est voilà, on se concentre, et puis on sait que si on a 90% du groupe qui ne va pas en cours ou qui ont déjà passé l'âge et que nous on va en cours, on sait que déjà on perd
voilà,
on se décale un petit peu, donc il faut faire un choix, quoi, normalement. Et donc, voilà, moi j'avais fait le choix de m'entraîner à 100% et de mettre entre parenthèses les études, quoi.
Okay. Est-ce qu'il y a des méthodes un peu spécifiques ou un peu nouvelles ou un peu modernes que vous exploitez justement pour vous entraîner?
Alors ça doit parler un petit peu à Kylian, mais effectivement on a pas mal d'outils, on utilise des machines qui permettent de contrôler le développement de la force, on utilise la cryothérapie par exemple, alors ça c'est peu, c'est en vogue, mais pour la récupération, on en a une à l'INSEP, donc voilà, tous les soirs pendant une quinzaine de jours on passe régulièrement à la cryo, donc à moins 120 degrés pendant 3 minutes, ça permet de bien récupérer, c'est un fait. Et en fait, on a énormément d'outils et on travaille justement avec le pôle STAPS et recherche de l'INSEP. Mmh. Et eux mettent en place tout un suivi qui leur servent aussi d'études scientifiques et qui, en retour, nous servent aussi pour l'entraînement. Donc en fait, on a tout un tas de petits outils qu'on utilise, mais en réalité, ça reste un sport assez, brut. Où c'est vraiment on travaille principalement avec son corps, et donc en fait on n'a pas besoin non plus d'avoir 15 000 outils pour être performant, quoi.
Ouais, mais alors par exemple, j'y connais pas grand chose, et à mon avis Kylian il va me poser des questions plus précises, mais quand même par exemple le sprint, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le départ, après dans la gestion de la durée, etc. Et ça, j'imagine que tu positionnes mal tes mains, ton pied, ta détente, donc ça doit être regardé à la loupe.
Ça, on le regarde,
genre, est-ce
on
que
le
vous
fait.
Êtes filmé, oui, et oui, tu regardes au millimètre près, tu décortiques le mouvement
quasiment, oui, on a Artfish, alors je sais pas pareil, ça parle avec lui, mais c'est une application justement de vidéo. En tout cas, c'était mon coach qui utilisait ça. Et effectivement, quand il prend une vidéo de notre départ, après il regarde l'angulation des membres inférieurs, les bras, pour voir si tout est ok. Et puis, mais bon, après c'est aussi un risque, parce que nous en tant qu'athlète, il faut parfois pas trop regarder toutes ces composantes, parce qu'après on est plus acteur, on est spectateur. J'en parlais d'ailleurs avec Cyril, mais c'est vrai que moi en plus je suis très porté sur tout ce qui est recherche, ça m'intéresse vachement. Mais il y a un problème, c'est qu'au bout d'un moment, quand on est dans le geste, on pense plus au geste qu'au résultat final, et donc en fait on sort carrément de son entraînement, quoi.
Bon, on en reparlera tout à l'heure, mais je pense que c'est là où il y a le bon équilibre aussi avec la préparation mentale, qui va te permettre toi de redescendre justement un peu plus et de mettre de côté toutes ces techniques pour être un peu plus centré sur ton bien-être. Je regardais un reportage qui expliquait justement sur les athlètes et notamment des sprinteurs, le plus compliqué pour eux c'était d'être détendu, parce qu'en fait si t'es pas détendu et si t'es stressé, tu te contractes et en fait c'est la détente qui va te permettre d'aller vachement plus vite.
Donc, faut être bien, voilà,
il n'y a pas que ça évidemment, parce que moi je suis détendu, je te fais pas un sprint, mais voilà,
c'est
le petit truc peut-être supplémentaire, ouais. Quoi. Okay. Et alors on se posait une question aussi, c'est est-ce qu'il y a d'autres disciplines en fait sur lesquelles desquelles vous allez vous inspirer, en se disant que justement sur le démarrage par exemple de la course, il y a certaines disciplines d'autres sports qui sont meilleures que nous, on va aller s'inspirer d'eux.
Étonnamment,
est-ce que ça vous le faites
non,
ou pas?
Non, pas du tout. D'accord. Et typiquement, c'est des choses qui peuvent être vachement intéressantes, mais on le fait pas du tout. Il n'y a pas encore cette intégration-là, ou en tout cas ce partage-là. Alors, on partage beaucoup à l'INSEP, mais je trouve que ça se fait peut-être pas assez. Et justement, là, on n'a pas assez de prise de recul par rapport à ça. Donc c'est vraiment, on fait du sprint, on fait que du sprint. Même en musculation, finalement, c'est vraiment axé que sprint, que athlétisme. Et voilà, on va peu regarder ce qui se fait autour. Enfin, en tout cas, nous, dans l'entraînement, on avait peu de retours sur ce qui se passait à côté, quoi.
Donc après, vous travaillez au sein de la team, c'est ça, au sein de l'équipe. Est-ce qu'il y a des échanges de bonnes pratiques entre joueurs, entre athlètes?
Alors, je pensais que tu allais me dire entre coach. Alors, entre athlètes.
Entre coach aussi, tu as raison.
Alors, entre coach, alors c'est marrant. Alors, c'est un peu l'INSEP, mais c'est le mode de fonctionnement de la fédération qui veut ça. Mais chaque coach récupère des athlètes. Après, c'est vrai que le but pour un coach, c'est d'avoir les meilleurs athlètes. Donc, il y a aussi une forme de rivalité entre groupes. Nous, entre athlètes, on le ressent pas trop, mais malheureusement, ça se ressent un peu entre coach. Et je préfère être franc. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a réellement un partage je sais pas. Alors, ils font ce qu'ils appellent des colloques où, je sais pas, deux fois par an, ils vont partager des plans d'entraînement ou des idées. Mais ça se fait très peu. Je crois que pas tout le monde participe. Et nous, entre athlètes, on peut se donner des conseils, mais en fait, ça reste aussi des compétiteurs et des concurrents, des adversaires. Donc, en fait, pas tant que ça, finalement. Chacun subit la semaine d'entraînement. On récupère. Ça, c'est peut-être le truc le plus important, c'est de chercher à bien récupérer. On revient le lendemain tout en sachant qu'on va souffrir. Et c'est tout, quoi. Mais je trouve pas qu'il y a énormément de partage sur. On peut se donner des conseils, mais pas tant que ça non plus, quoi.
Ok.
Le but, c'est quand même d'être devant, quoi, à la fin. Donc.
Kylian, je crois que tu avais une question sur les 4x100 mètres, justement, et la collaboration entre
les deux. Oui, justement, parce que moi, je voulais revenir sur le fait que tu as été membre du relais 4x100 de l'équipe de France en 2016,
ouais.
Avec notamment un titre de vice-champion d'Europe en 2018.
Ouais.
Quelle relation est-ce que tu as avec les autres coureurs?
Écoute, là, par exemple, la team de 2016, on a été médaillé au championnat d'Europe en 2016. Et donc, du coup, la team, c'était Christophe Lemaître, il y avait Jimmy, enfin, en tout cas pour cette année-là, la grosse team, c'était Christophe Lemaître, Jimmy, moi-même et Michael Zézé. Donc, il y en a un qui s'entraîne actuellement à Londres. Christophe il est à Aix-les-Bains et Jimmy s'entraîne avec moi. Donc, en fait, finalement, quand on se retrouve, on se connaît parce qu'on partage des camps d'entraînement et des sélections depuis des années. Mais finalement, on n'est pas non plus si proche que ça. Donc, en fait, on fait en sorte que tout se passe bien et qu'on s'entraîne bien et qu'on aille tous vers le même objectif. Mais au final, après, quand on est à l'hôtel ou quand on est en stage, c'est pas pour autant qu'on est tous dans la même chambre. Donc, les relations sont bonnes, les relations sont saines, mais on n'est pas tous non plus amis, quoi. C'est vraiment, on sait qu'on a besoin des uns et des autres pour réussir. Mais voilà, quoi, c'est tout. Pas plus loin.
Justement, là, tu dis que tu as besoin des uns des autres pour réussir. Quelle est l'importance de la bonne entente du groupe dans la performance?
En fait, c'est même pas sur la piste au moment de la compétition, mais c'est plus à l'entraînement ou justement quand on est par exemple à l'hôtel, il faut qu'il y ait une bonne ambiance, il faut qu'on se sente à l'aise dans le groupe, parce que sinon, en fait, un athlète qui se sent pas à l'aise, j'ai déjà vu, il sera vraiment pas performant le jour J, donc en fait, il fera pas partie de l'équipe. Donc en fait, vraiment, le but, c'est de c'est de pouvoir faire un finalement, sans pour autant, encore une fois, passer toutes les journées ensemble et devoir jouer à la PlayStation ou manger le soir à la même table. Mais c'est assez complexe, hein, comme il faut y être pour le comprendre. On est vraiment très rarement ensemble finalement, en dehors du stade. Et puis on fait l'entraînement ensemble, on retourne dans nos pioles et puis chacun fait sa vie et puis on se retrouve pour le jour de la compétition. C'est assez complexe comme relation parce que mine de rien, quand on est sous la piste et qu'on s'apprête à rentrer sur un championnat, et ben là on sent quand même qu'on est extrêmement proche des autres athlètes. Mais une fois que c'est terminé, on ne l'est plus vraiment finalement. Donc en fait, ça se soude énormément quand on est sur le point de rentrer sur le stade et qu'on est sur la piste. Et puis dès qu'on n'est plus sur la piste, finalement, chacun retourne à sa vie de tous les jours, quoi. Donc c'est une entente qui est très complexe et que je n'ai pas encore honnêtement percé à jour. Je trouve que c'est une des grandes complexités pour moi du 4x100 mètres. Et je pense que ça mérite d'être travaillé en profondeur ou exploré en tout cas, parce que c'est, je pense qu'on a gagné là-dessus justement.
Et je sais que ça se fait de plus en plus maintenant. Est-ce que vous le faisiez à l'époque, le fait de faire des stages justement pour travailler cette entente de groupe?
On en fait beaucoup, on en fait énormément. On doit en avoir 3-4 dans l'année, hein, donc on se voit quand même très régulièrement. Et en plus des stages qu'on peut faire avec notre propre groupe. Donc on en fait déjà. Et puis souvent, en plus, on cherche à faire des activités ensemble pendant le stage. Mais en fait, de toute façon, c'est comme dans la vie de tous les jours. Pour s'entendre avec quelqu'un, ça se fait naturellement. On ne peut pas forcer les choses. Donc finalement, là, c'est une bonne entente professionnelle, j'ai envie de dire. Mais ça va pas plus loin. S'il n'y a pas le feeling dès le départ, on va pas se forcer, quoi. On sait qu'on est obligé de travailler ensemble et donc qu'on fasse attention à notre comportement les uns vers les autres. Mais c'est tout, quoi.
Y a pas, ouais, puis je pense qu'il y a quand même du travail à faire sur... mais qui est un travail que tu fais même en management dans des entreprises, quoi. C'est-à-dire, tu dois comprendre le profil de l'autre, tu dois comprendre son mode de communication, parce que forcément, ça, je pense que c'est des trucs qu'on t'apprend aussi. Et, tu vois, en fait, et je pense que vous ne cherchez pas tous la même chose. Tu vois, il y en a, c'est la célébrité, enfin, c'est la gagne, l'autre, c'est justement le collectif. Donc forcément, il faut que tu apprennes à coordonner tout ça, quoi.
C'est exactement ça. Alors ça, c'est le travail que j'ai fait avec Cyril. J'ai compris ça en 2016. Mes motivations profondes, c'est comme ça qu'il appelle ça. Mes motivations profondes, et en fait moi typiquement je m'entraîne pour moi et je fais tout pour, c'est mon objectif, et donc c'est vraiment pour moi que je m'entraîne, et c'est même pas, je cours même pas contre les autres mais vraiment contre moi-même. Et le but, c'est d'être la meilleure version de moi-même. Ça, c'est vraiment ma motivation profonde, et c'est de faire plaisir aussi, ou de satisfaire mes proches qui m'ont soutenu en plus toute ma vie. Mais par exemple, il y en a d'autres, ça va être motivation externe. Ça, c'est Cyril pourrait mieux l'expliquer que moi, eux, ça va être vraiment une compétition externe. Donc par exemple, demain, si on fait un jeu de cartes, peu importe, il faut que la personne gagne, sinon elle n'est pas bien. Moi, ça m'est complètement égal. Et donc finalement, si on n'arrive pas à comprendre ça, et ben, le discours de l'entraîneur, par exemple le jour J, moi j'ai déjà vu, ça s'est arrivé, et j'ai déjà vu des athlètes se décomposer parce que le discours n'était pas le bon. Bah, typiquement, moi, si on me dit Stuart, à 5 minutes de la course là, fais-toi plaisir, on est là, ça me détruit. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là, quoi? Il y en a d'autres, ça va être parfait. Mais il y a une
parce que ça va les détendre et ça va descendre la pression.
Mais moi, ça, c'est pas du tout les bons termes. Moi, il faut me dire, on y va, couteau entre les dents. Là, okay. Et il y en a d'autres, au contraire, c'est pas du tout la même approche. Et donc, en fait, ça, par contre, on l'a pas encore bien saisi. Parce que j'ai vu des athlètes vraiment se décomposer parce que le message était pas le bon. Et au contraire, ils interprétaient la chose différemment. Et donc, du coup, après, sur la piste, c'est pas les mêmes.
Quoi.
Exactement. Contre-performant. Ça me l'a fait d'ailleurs, moi, une compétition. J'étais dans une forme phénoménale. Et à 5 minutes de rentrer sur la piste, on m'a dit, Stuart, vraiment, prends du plaisir. C'était les derniers mots de l'entraîneur. Je suis arrivé et j'ai fait ma pire performance de la saison. Ah, et j'ai senti dans les blocs, avant de partir, au prêt, j'avais ce message, fais-toi plaisir, fais plaisir. Et je suis honnêtement parti, mais vraiment comme un chamallow, quoi. Là, je rebondissais sur la piste, mais je courais pas, quoi. Et j'ai passé la ligne en me disant, mais attends, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible, il y a le truc qui était pas bon. Et c'est là que j'ai compris avec Cyril, on s'est dit, non, mais là, c'était le message, quoi.
C'était pas le bon ressort.
Ça a eu un
quoi.
Impact, mais atroce, quoi.
Alors justement, on parle d'une... Tu étais en pleine forme, t'étais au top de ta performance et puis il s'est pas passé ce que tu souhaitais. Alors justement, comment tu gères cette pression en fait? Mais alors plus pression de la compétition. Comment ça se gère ça? Parce que finalement, t'as tant d'entraînement, d'heures passées pour, bah, tu disais tout à l'heure, 15 secondes. Enfin, 15 secondes, c'est plutôt ou 10 secondes. Voilà. Ouais. Et tout se passe en 10 secondes. Tu fais le résumé d'un an de travail en 10 secondes. Ouais. Comment ça se gère ça?
La grande particularité, c'est vrai que c'est qu'encore une fois, ça, je retrouve mes discussions que j'ai avec Cyril, mais mon préparateur mental, on passe par des épisodes d'euphorie et de dépression. C'est quotidien. Donc, par exemple, je viens à l'entraînement et puis je réussis mon max en muscu ou je fais une super course. Là, je vais être euphorique. Le lendemain, je reviens, j'arrive pas à refaire la même chose. Je vais être en dépression. Et c'est comme ça toutes les semaines, tous les jours. Et donc, c'est la même chose avec la compétition finalement. Et c'est encore pire parce qu'on s'entraîne parfois pendant. Moi, ça m'est déjà arrivé de m'entraîner pendant 5 mois sans faire de compète et puis de devoir sortir là sur 3 mois enchaîner les compétitions. Si le résultat est pas bon, c'est de la dépression totale quoi. On le dit pas, ça se ressent pas forcément. Alors après, quand on est dans un groupe d'entraînement, ça se ressent directement. Finalement, c'est presque c'est pas au jour le jour, mais c'est à la compétition, entre chaque compétition, qu'il faut réussir à retrouver une énergie pour. Et c'est là où c'est important, je pense, d'avoir un préparateur mental.
Ouais.
Pour justement reprendre conscience que c'était qu'une compétition et que sur la prochaine, on peut réussir. Mais généralement, ça prend du temps avant de rebondir, quoi. C'est compliqué.
Est-ce que vous avez dans vos cours, Kylian, des aides par rapport à cette gestion de la compétition et tout ça, de cette pression?
Oui, totalement. On a tout ce travail sur la psychologie du sportif parce qu'on le sait maintenant, ça reste un domaine quand même qui est majeur à la compétition et surtout à la performance. Un athlète peut être très performant en entraînement et totalement s'effondrer en compétition. Donc ça reste quand même un impact majeur, un enjeu majeur. De la performance.
Et c'est marrant, ça, c'est vraiment des jeunes. Enfin, j'ai l'impression que c'est les futures générations qui sont de plus en plus préparées à ça, quoi.
Ouais, on en prend conscience, de plus en plus conscience, effectivement, ouais. Parce que c'est important. Et puis c'est vrai que de l'extérieur, alors c'est toujours facile de commenter les performances d'un athlète, mais il y a tellement de choses derrière. Déjà, on sait même pas si l'athlète est venu à 100% de ses capacités, on sait pas ce qui s'est passé dans sa vie à côté, parce qu'on est aussi, on a une vie comme tout le monde, quoi. Donc si demain, il y a un élément qui peut nous mettre la pression, ou au contraire, qui peut nous épanouir, ça aura un impact direct sur la performance, quoi. Mais vraiment, en plus, on le sent à l'entraînement ou en compétition, c'est direct. Le mental, et pendant trop longtemps, on a estimé que le mental, c'était un travail pas de faible, mais que c'était, on pouvait le zapper. Et finalement, c'est hyper important. Et je pense qu'on le travaille vraiment pas assez. Moi, je l'ai fait parce que c'est un athlète, un partenaire d'entraînement, qui m'a conseillé d'aller discuter avec Cyril parce qu'il le trouvait hyper intéressant. Pas parce que j'en avais forcément besoin, mais il trouvait que c'était hyper intéressant de travailler avec lui. Donc je me suis mis à travailler avec lui. Et finalement, en découle une amitié maintenant, mais pour moi, c'est essentiel, quoi. Quand il y a des moments de doute, j'ai un peu plus de mal à aller vers lui quand ça va bien, parce que je me dis que du coup, je sais pas quoi lui raconter.
Je te rassure, on fait ça avec nos psys aussi. Hein.
Voilà, je sais pas trop quoi lui raconter, du coup, j'ai peur d'être relou avec mes moments positifs. Mais par contre, quand ça va pas, là, je lui envoie un petit message. Écoute, là, j'ai un petit moment de doute, qu'est-ce que t'en penses? J'ai besoin de son conseil, j'ai besoin d'être rassuré un petit peu aussi en même temps. Et puis à la fin, en fait, après plusieurs années de travail, on développe quand même des réflexes qui permettent de tout de suite redescendre un peu en pression.
Ouais, mais en fait, il te donne certaines clés qui te permettent de réagir. On va en reparler justement de cette relation avec le préparateur mental. Kylian, il me semble que tu avais aussi des questions. On parlait de pression, mais il y a aussi une pression, je trouve, aussi médiatique. Quand tu atteins un certain niveau, je crois que tu avais des questions par rapport à ça.
Oui, c'est ça. Je voulais savoir justement comment tu gérais cette pression médiatique, surtout quand même quand on représente sa nation, qu'on va passer à la télé, qu'il y a les journalistes, tout ça. Comment est-ce que tu gères ça de ton côté ?
Honnêtement, alors déjà, je suis pas Cristiano Ronaldo ou Christophe Lemaitre, donc j'ai pas la pression avec des couvertures de l'équipe tous les 2 ou 3 mois. Donc pour l'instant, moi ça va. Mais honnêtement, j'ai jamais vraiment pensé à ça. On rentre sur un stade et puis il y a des caméras, mais on n'y fait absolument pas attention. Il y a une interview après la course, mais pareil, on n'y prête pas vraiment attention. Finalement, en fait, alors je sais pas si certains ont la pression par rapport à ça. Moi, ça m'a jamais affecté. Et je me suis jamais posé de questions par rapport à ça. Au contraire, je trouve ça plutôt sympathique. Et justement, c'est aussi un élément qui, on parlait tout à l'heure de métier, c'est aussi une forme de reconnaissance. Quand on a des questions de la part d'un journaliste, quand on est appelé par un journaliste, justement, c'est qu'on est mis en avant. Alors après, ça peut être positif ou négatif, mais en attendant, on parle quand même de son sport et je trouve ça plutôt agréable. Donc en fait, moi, j'ai absolument pas la pression par rapport à ça. Quand je vais courir, je suis sur la piste et puis je fais pas attention à ce qui se passe autour ni au public. J'ai pas de pression particulière, en tout cas, par rapport à ça.
Et est-ce qu'il y a une pression médiatique envers les sponsors qui, eux, voudraient que tu sois justement dans les journaux, que tu fasses la une de l'équipe
Alors non, par rapport à la visibilité, ils vont me demander, alors moi je te réponds cash, hein, ça c'est marqué dans le contrat, il faut que tu fasses beaucoup de photos avec ton sponsor, parce que t'es quand même payé pour ça, mine de rien, c'est ta rémunération principale, c'est la visibilité, et c'est ce que je dis à chaque fois, c'est que t'es un panneau publicitaire vivant, donc il faut que tu portes la marque constamment, et puis c'est la performance, donc dans ton contrat, il faut que tu réalises tel et tel temps, sinon ton contrat n'est pas renouvelé, ou sinon tu perds un gros pourcentage de ton contrat. C'est comme ça que ça marche, quoi. Donc ça, par contre, ça, c'est une vraie pression, parce que quand tu commences à rentrer dans le milieu professionnel, tu signes un contrat sur lequel il y a marqué un temps qui est défini, et ça, je pense que ça aussi, pour tous les athlètes, c'est une grosse pression, parce que tu sais très bien que si tu réalises pas ce temps-là,
tu perds beaucoup, l'enjeu
est fort.
Tu
perds
fort,
beaucoup, tu es sur la sellette, quoi. Ils vont te laisser un an, et puis après, sinon, c'est ciao, quoi. Donc là, par contre, ça, c'est une vraie pression, ça.
Et tu les trouves comment, les sponsors? Excuse-moi, Kylian.
C'est eux qui viennent à toi. On a des agents avec qui on travaille, d'accord, qui nous mettent aussi en avant. Mais généralement, après, quand on est performant, dès qu'on est dans le top 5 français, on a automatiquement un sponsor. Donc, c'est okay, eux qui viennent à nous directement. Et puis, donc ça aussi, pareil, ça fait partie du... C'est à partir de ce moment-là qu'on se rend compte qu'on est vraiment dans le milieu professionnel et que c'est un métier, quoi. Quand on commence à venir vers nous pour représenter des marques, là, on se dit, OK, ça devient sérieux.
Au niveau des réseaux sociaux, justement, tu disais qu'il fallait prendre des photos avec toujours les photos avec ce sponsor. Sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est toi qui gères tes réseaux sociaux ?
Moi, je gère mes réseaux sociaux seul. Et ça, je pense que honnêtement, c'est une forme de formation que tous les athlètes ou tous sportifs de haut niveau connaissent. C'est un peu comme les influenceurs sur les réseaux sociaux. C'est une formation express, et en fait on apprend quand même à bien maîtriser les réseaux, à diffuser une image assez positive, et donc on peut faire des années de communication, mais en fait là la meilleure des formations, c'est d'avoir son propre réseau, de le maîtriser, puis de réussir à communiquer directement dessus. Ça, je pense que c'est un truc que j'ai pas mal maîtrisé, et puis qui est finalement assez intéressant pour un athlète, parce que justement c'est ce que les marques recherchent aussi. Donc moi, je gère ça tout seul à 100%, et puis ça se passe très bien dessus.
Une photo de ton profil sur Instagram, elles sont super belles.
C'est
ton, ah ouais, ton profil, il est hyper beau. Non, mais c'est vrai, je sais pas.
Le feed est sympathique.
T'as un photographe qui...
Là, ouais, on était avec un photographe. Là, par contre, c'était vraiment le but. C'était de faire ce feed.
Très,
donc, on a fait des super photos avec le photographe. En plus, ça mettait en avant, du coup, le sponsor. Et c'est plutôt bien sorti, là.
Ouais, tu m'étonnes.
Est-ce que tu peux nous décrire la sensation de la victoire?
Alors, c'est une bonne question. Là, ça me... Tout à l'heure, je parlais d'euphorie. Et c'est vraiment ça, c'est de l'euphorie, et on a un instant de flottement. Pendant que je te décris ça, je m'imagine, parce que du coup c'est vrai que la question a pris de court là, mais c'est difficile à décrire. C'est vraiment de l'euphorie, et c'est une euphorie qui est prolongée, et je pense elle dure pendant jusqu'à la prochaine compétition finalement. Donc quand on est victorieux, quand en tout cas il y a un élément extrêmement positif qui ressort d'une compétition, on va être euphorique honnêtement pendant toute la semaine. Et là par contre, on a un boost en termes de confiance, physiquement on est transformé, mais c'est vraiment ça, c'est le bon mot, le bon terme, c'est de l'euphorie pure et dure, quoi, qui nous tient jusqu'à la prochaine compétition. Donc si la prochaine compétition est dans 15 jours, on peut être euphorique pendant 15 jours, quoi. On surfe vraiment sur cette vague de bien-être et de positivité, et ça, je pense que ça se ressent aussi autour de nous, mais c'est vraiment ça, je pense que la description de la victoire, c'est ça.
Et est-ce que justement ça peut être un boost pour les compétitions à venir?
Ah ouais, complètement. Là, c'est généralement un athlète qui est performant sur ses premières compétitions, il va l'être alors tout le reste de la saison, je ne sais pas, mais en tout cas il va être performant pendant un bon bout de temps. C'est un vrai plus en termes de confiance. Après, quand on est sur la piste, si on réalise un super temps dès le début de la saison, en plus on va avoir une espèce de... Il y a une hiérarchie très rapidement qui se dessine dans l'athlétisme, et puis tout le monde est au courant des bilans et des statistiques de chacun. Donc quand on arrive sur une compétition et qu'on est favori, on arrive presque serein, quoi, sur la piste, et ça c'est hyper facile après de dérouler, d'être justement hyper léger.
Tu dis ça, mais en fait je pense que c'est vraiment une question de personnalité. Moi perso, j'arriverai en étant la top one, ouais. je me mettrai ouais. une pression de ah dingue non, pression. En me disant là je vais je peux pas décevoir la gnagnin.
Il y a ça, exactement.
Mais... quand t'as gagné, moi je pense que le truc d'après, moi la compète, je pense que je serai contente une heure et puis après je me dirai oh, mais attends, c'est sûr que la prochaine fois je vais me planter, comment je vais faire pour rester au niveau. Donc je pense que c'est aussi une question de personnalité. Hein.
Oui, c'est vrai. Ouais. Après, si on arrive à voir les choses de manière assez positive, et puis il faut en jouer un petit peu de son quand on arrive sur une compétition et qu'on est plutôt favori, ou en tout cas dans le top 5, on sait qu'on va faire une bonne compétition, il faut réussir aussi à en jouer parce que tout est dans le Usain Bolt qui est devant, qui est sur la piste de la ligne de départ et qui en joue. Alors après, ceux qui sont habitués, ça les déstabilise pas, mais on sait qu'il est à côté de nous, qu'il va être performant. Pareil pour les Américains, ils font toujours un show, mais par contre, quand on est en chambre d'appel avec eux, c'est pas du tout la même chose, quoi. Les mecs sont hyper concentrés parce qu'il n'y a plus de caméra, il n'y a plus rien, donc les mecs sont dans leur compétition à 100%, comme tout le monde. Et puis c'est au moment où on arrive sur la piste où là, voilà, ils ont l'air détendus, mais ils étaient tout aussi concentrés que nous il y a 5 minutes, quoi. Donc ça, c'est du bluff, quoi. Mais bon, on sait voilà que les mecs vont être ultra performants, donc ça joue aussi beaucoup.
Mais c'est vrai ce que tu dis, ça met aussi une pression sur les autres, parce que s'ils se disent cette personne, enfin cet athlète, mon adversaire est imbattable. Déjà, ils partent avec cet avis négatif que quoi qu'il arrive, ils pourront pas finir en tête.
Exactement. Alors ça joue énormément. Alors je pense qu'il y a il y a un moment où on passe un palier quand on atteint un certain niveau où ça n'existe plus, où on devient presque un peu barjo, où on oublie carrément l'adversité. Mais quand on est surtout chez les jeunes, ça arrive beaucoup. Moi, on m'en a déjà parlé. On m'a déjà dit quand t'es en compétition, voilà, on a vu que t'étais sur la liste. Bah c'est bon, on s'est dit ça sert à rien de venir quoi aujourd'hui. Voilà. Donc on m'a déjà raconté ça. Et par contre, moi ça. Bah justement, là, par exemple, à Londres en 2018, en finale des championnats du monde, avec les Américains, les Jamaïcains, les Anglais, tout le monde est ultra performant. Si tout le monde court à 100% de ses capacités, alors on n'a aucune chance. Mais par contre, tu rentres quand même sur la piste en te disant que tu vas chercher ta médaille. Tu deviens complètement, tu deviens un peu irrationnel. Mais c'est ce qu'il faut, quoi. Sinon, tu n'arrives pas, tu ne viens pas là. Donc, en fait, il y a un moment donné où tu passes ce cap et où il faut absolument pas être rationnel, quoi, quand tu fais du sport de haut niveau. Il faut que tu aies la sensation d'avoir ta chance à chaque moment.
C'est un point que tu as abordé, c'est que tu n'as pas vraiment d'adversaire, tu n'as que des concurrents. En sprint, quoi qu'il arrive, les personnes, tu ne peux pas impacter la performance des autres personnes. Des autres athlètes qui sont à tes côtés. Faut que tu fasses ta meilleure performance et espérer que ça soit toi qui fasses la meilleure performance.
Ouais. Alors en fait, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Alors moi, en tout cas, c'est ma personnalité, c'est ma façon de voir et de vivre les choses, mais de ressentir les choses. C'est un combat personnel, individuel, et j'essaie d'être la meilleure version de moi-même. Donc c'est pareil sur la piste. Je me concentre sur mon couloir. Néanmoins, quand on est sur une compétition et qu'on, par exemple, au moment de l'éjection des blocs, parfois on est contre des super partants. La personne à côté de nous va nous mettre un mètre dans la figure au bout de 15 mètres. Là, honnêtement, ça peut avoir vraiment un impact sur la course. Et en fait, ça a un impact sur la course. Quand on est en train de courir, c'est très, très compliqué de rester focus sur sa ligne. Et ça se voit d'ailleurs sur toutes les compétitions. Souvent, il y a des athlètes, quand ils sont seuls devant, ils sont presque déstabilisés et ils perdent leurs moyens sur les derniers mètres. Oui. Et t'en as, au contraire, quand ils sont un peu en retrait pendant toute la course, ça leur donne cette espèce de motivation d'aller chercher les autres. Et puis, t'en as d'autres qui... Mais très rare, c'est très rare quand même qu'un athlète soit focus sur sa ligne, un peu comme un cheval de course, là, avec des œillères. Ça, c'est assez rare. Généralement, on est quand même impacté par ce qui se passe autour de nous et le développement de la course, quoi.
Alors moi j'ai une petite question. Oui, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure sur l'équilibre en fait entre le plaisir et le stress. Il n'y a pas que la compétition, mais enfin tu vois, il y a un moment donné où vous poussez la performance, c'est-à-dire tu te fais mal, quoi. Tu dois savoir apprendre à gérer la douleur. On peut pas, même si tu adores ton sport, je pense qu'il y a des moments où il y a des jours où c'est quand même compliqué. Donc comment tu arrives à équilibrer toi justement à trouver cet équilibre entre le plaisir de pratiquer ce sport, parce qu'à la base c'était quand même ça, et d'aller jusqu'au bout de cette performance, quoi.
Alors, le bon exemple que je donnais tout à l'heure, c'est la fameuse séance de lactique de 3 fois 150 mètres avec 15 minutes de récupération entre chaque course. Là, à la fin de cette séance-là, il nous faut typiquement 30 minutes à 1 heure pour récupérer, vraiment pleinement. Et puis quand on est au self, après en train de manger, on n'est encore pas bien, on est encore un peu dans les vapes. Et puis juste après la séance, on voit flou, on vomit, etc. Donc ça, c'est vraiment le bon descriptif de la séance, c'est super sympathique. Mais Honnêtement, encore une fois, là, tout à l'heure, je parlais du fait de perdre tout sentiment de nationalité quand on est en compétition. Et ben, c'est exactement la même chose quand on est sportif de haut niveau. On a cette capacité à aller à repousser nos limites. Et en fait, on y prend goût, finalement. Donc, et en fait, c'est ce qu'il y a de pire, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, si on va pas, on repousse pas nos limites et qu'on n'a pas ce sentiment d'être complètement, d'être à l'agonie physiquement, on a l'impression de pas avoir travaillé. Donc en fait, on a besoin de ça pour sentir qu'on a bien travaillé. Et en fait, on est constamment à la recherche de nos limites. Donc en fait, finalement, c'est pas les premiers mois que j'ai passé à l'INSEP étaient durs parce qu'il faut habituer le corps, parce que je passe de 3 séances d'entraînement à 2 quotidiennement, plus le week-end. Donc c'était dur physiquement. Mais au bout d'un moment, on s'habitue tellement que c'est plus, y a rien de particulier, quoi. Tant qu'on met en place une bonne récupération, une bonne nutrition, en fait, c'est pas si dur que ça.
Par contre, y a pas un moment donné où tu pousses la machine tellement loin que... Ouais. C'est pas qu'une question de douleur aussi, c'est une question aussi de bien-être dans la globalité dans sa vie et tout ça. Au bout d'un moment, est-ce que le poids de la compète, le poids de la performance, parce qu'au bout d'un moment, tu te dis, zut, j'en ai ras-le-bol d'être chronométré, j'ai juste envie d'avoir le plaisir de courir, quoi. Est-ce que ça, il y a des moments où ça peut arriver,
Il y a des moments, généralement, quand on arrive en fin de saison et qu'on a envie de partir en vacances, c'est parce que justement, ça commence à arriver, quoi. Donc on a besoin de repos, si ça arrive. Mais généralement, ça, quand ça arrive, c'est qu'on commence à perdre un peu le plaisir, quoi. Le plaisir de la compétition et de la course, parce qu'en fait, nous, on associe... Ouais. Moi, mon plaisir, c'est de me faire mal à l'entraînement, quoi. C'est un peu... C'est sado, mais c'est vraiment ça.
Je suis face de lui, là. On regarde bizarre quand il dit ça.
Non, mais typiquement, voilà, je fais un peu de vélo aussi à côté. J'ai mon vélo de route. Bah, si je fais du vélo de route, moi, je pars faire 70 bornes et pas moins.
Tu vas pas pour te balader dans le champ d'à côté.
Ça n'existe pas, quoi. C'est pas possible. Ouais, quand je fais de la course, quand je fais tout, il faut que ce soit à 3000%. Sinon, ça marche pas. Sinon, c'est pas bon. Donc, en fait, moi, mon plaisir, c'est ça. C'est d'aller repousser mes limites constamment. Donc, ça n'existe pas, en fait. Même quand... En fait, le rôle du coach, carrément, à l'entraînement, c'est de nous tempérer, quoi.
Pour pas te blesser ou ne pas aller trop loin.
Nous, après 3 semaines, on lui dit, est-ce qu'on peut mettre les pointes ou pas? On peut accélérer? Non, les gars, calmez-vous. On y arrive. Il nous reste encore un petit mois comme ça. Mais nous, ça nous démange, quoi. On a envie d'accélérer.
Donc, et en termes d'équilibre avec la vie perso, parce que ça prend vachement de temps. Tu disais tout à l'heure que tu pouvais même te retrouver à rester quelque part enfermé à l'INSEP, tu vois. Ouais. Comment tu gères ça, cet équilibre de vie perso? Est-ce que c'est compatible?
Oui, c'est compatible. Je pense que typiquement, si on a un lieu de résidence qui est proche de l'INSEP et qu'on a passé notre vie là proche de l'INSEP, en tout cas dans Paris, on peut très bien aller voir nos amis. On a du temps quand même, hein, en tant qu'athlète, on peut passer du temps à l'extérieur. Moi, je me souviens quand même que j'avais développé une amitié assez forte avec certains membres du groupe. Donc en fait, régulièrement, une fois dans la semaine, on partait au ciné, on pouvait sortir un peu de l'INSEP. Mais c'est vrai que moi, par exemple, j'ai pas vraiment développé mon cercle social depuis que je suis à l'INSEP, quoi. Donc je suis revenu en France et depuis, je l'ai pas réellement développé. Donc je retrouve des proches que j'ai connus quand j'étais plus jeune ici à Paris ou qui sont revenus de Belgique aussi. Mais sinon, à part ça, je ne l'ai pas vraiment développé. Ça reste un milieu
un peu enfermé,
très athlétique.
Très athlétique. Et après, j'imagine qu'aussi, tu ne peux pas aller en samedi soir en boîte de nuit, sortir jusqu'à 4 heures et boire un peu.
Non, moi, je ne le fais pas. Alors, il y en a qui le font. Il y a des sportifs, justement. Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a qui ont besoin de sortir et d'extérioriser. Moi, ce n'est pas mon style du tout. Moi, j'ai l'impression que, justement, si je sors, je vais impacter ma récupération. Et au contraire, ça va être pire. Donc, moi, je ne sors pas.
Mais ce n'est pas un sacrifice pour toi.
Non.
C'est pas un manque.
Et justement, c'est un bon terme. J'ai jamais eu la sensation de faire des sacrifices. Comme c'est ma passion, moi je vis que pour ça. Donc en fait, j'ai jamais fait de sacrifice. Si je pouvais voir mes proches un peu plus souvent et régulièrement, ce serait sympa. Mais en fait, non, sinon, j'ai pas fait de sacrifice. Ouais. En plus, j'ai rencontré ma compagne dans l'athlétisme. Donc on était tous les deux à l'INSEP. On avait une chambre à l'INSEP.
Et là, vous avez le même équilibre, quoi. Enfin, vous avez le même rythme.
Non, mais alors là, on s'enferme encore plus. Mais c'est bon, nous, ça nous a bien servi.
Ok. Alors, j'ai posé la même question de Cyril. C'est que dans un monde qui est quand même vachement centré sur la performance, il y a un moment donné, il y a un risque potentiel de dérapage, notamment de te faire aider. Alors, tu vois, au début, c'est des techniques et puis après, ça peut être médicamenteux, etc. Enfin, je parle du dopage. Toi, qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ta vision par rapport à ça? Et voilà.
On sait que ça existe. On en entend pas forcément régulièrement parler. Ce qui est assez... Je vais dire étrange, mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas trop de... Je ne sais pas si on n'a pas de problème de dopage, mais en tout cas, on n'en entend pas régulièrement parler non plus. On n'a pas de grands coups médiatiques sur le dopage. Donc en fait, on sait que ça existe, on mm-hmm. sait qu'on court contre des athlètes qui sont potentiellement dopés, on remarque certaines performances qui sont extraordinaires et qui sortent du commun, donc en fait on se pose pas mal de questions. Mais après, c'est vrai que c'est pas nous déjà en tant que dans notre groupe. À chaque fois qu'il y a un athlète qui est pris pour dopage, en fait, on est plus là. Enfin, on se dit plus. Ben, c'est presque un soulagement. On se dit bon, on se doutait bien que ce gars-là était dopé. Donc c'est un soulagement que l'athlète se soit fait attraper. Nous, on a des contrôles antidopage régulièrement en plus. Donc en fait, au final, on n'est pas une nation qui, je trouve pas personnellement, on n'est pas
réputée. Ouais, pour ça, quoi.
Alors que pourtant, on est dans une discipline avec l'haltérophilie et le cyclisme qui sont les plus touchés par le dopage. Ouais. Il me semble, il y avait un documentaire sur Arte là-dessus.
Exactement.
Et donc on est touché par le dopage. Alors ça doit se faire secrètement parce que honnêtement, dans l'athlétisme, on n'en entend pas, en tout cas en France, pas souvent parler.
Et dans vos études, et Kylian, je ne sais pas si tu m'entends, mais est-ce que vous aussi, vous avez des cours de prévention justement du dopage ou comment échapper à ça et tous les mauvais côtés en fait?
Exactement, tout comme la psychologie tout à l'heure, ça reste un domaine super important et c'est vrai que c'est quand même présent et c'est important de voir que le dopage, donc il va y avoir les bienfaits, donc je parle de l'amélioration de la performance, ce qui est plutôt négatif dans l'esprit sportif, mais aussi les impacts négatifs. Par exemple, on peut voir que de nombreux athlètes qui ont été attrapés pour dopage ou qui sont suspectés de dopage, ils peuvent avoir des maladies quand ils sont assez jeunes, dès 10 ans, 15 ans après la fin de leur carrière, quand ils ont 45, 50 ans. Et donc, ça a quand même un fort impact sur la santé.
Kylian aussi qui voudrait te poser des questions, notamment par rapport à ton rapport à l'entraîneur.
Oui, exactement. En plus, moi, c'est totalement mon domaine parce que je suis en STAPS dans la filière entraînement sportif. Donc, c'est la filière qui va pour l'entraînement sportif, même si mon ambition, c'est plus de devenir journaliste sportif à la fin de mes études. Mais justement, toi, comment est-ce que tu décrirais le rôle de l'entraîneur?
Alors, l'entraîneur, pour moi, c'est un accompagnateur qui te permet d'atteindre ton plus haut niveau et qui te permet d'être le plus performant possible. En tout cas, c'est un point d'ancrage, c'est un repère pour un athlète. Mais ça doit surtout être, comme je l'ai dit, un accompagnateur finalement. Parce que c'est vrai que, alors je pense que vous allez me poser d'autres questions par rapport à ça, mais c'est vrai que souvent l'entraîneur est au centre de tout l'entraînement, toute la préparation de l'athlète, quitte à prendre parfois trop de place finalement. Et donc l'athlète peut perdre en autonomie. Et ça, je pense que c'est un risque. Mais pour moi, l'entraîneur, c'est réellement un accompagnateur qui bonifie l'athlète finalement et les performances de l'athlète.
Donc selon toi, tu considères que l'athlète devrait avoir plus d'impact et devrait avoir plus de maîtrise dans la séance que l'entraîneur prépare ?
Pas nécessairement, mais c'est plus, en fait, c'est tout ce qui se passe autour, finalement. Alors, dans certains sports, c'est déjà le cas. C'est l'athlète qui choisit son entraîneur, il choisit son staff médical, etc. Dans l'athlétisme, c'est pas trop le cas. Donc, c'est un groupe qui se compose autour de l'entraîneur. Donc, en fait, en fin de compte, si ça matche pas forcément avec l'entraîneur, t'es pas en position de force finalement. Alors le but c'est pas d'être en position de force, mais il y a pas d'équilibre finalement. Donc si tu t'entends pas forcément avec ton entraîneur ou que l'entraînement te convient pas, t'as peu de choix au final et tu vas devoir composer avec. Tu vas devoir continuer l'entraînement et ça, je pense que c'est une vraie problématique. Et en tout cas, c'est ce qu'on a dans le sport et dans l'athlétisme. On n'a pas vraiment le choix. Moi, ça me convenait. Je suis arrivé à l'INSEP, je me suis entraîné avec qui je voulais, mais je sais qu'il y a eu des cas de personnes qui s'y retrouvaient pas et là ça devient vraiment compliqué et on peut pas atteindre un haut niveau de performance, un bon niveau de performance si on n'est pas à l'aise avec l'entraîneur. Donc pour moi ça doit vraiment être un accompagnateur et puis il faut comprendre toutes ces choses là mais en tout cas dans notre fédération c'est pas vraiment le cas, quoi. On nous pousse aussi un petit peu vers un entraîneur en particulier et ça ça peut être assez compliqué.
Donc c'est ce qu'on appelle justement la relation entraîneur-entraîné. Comment est-ce que toi Qu'est-ce que toi tu en penses et comment est-ce que tu l'as vécu?
Alors, la relation entraîneur-entraîné pour moi, elle était assez particulière parce que justement, étant très autonome, Parfois, je pouvais me rendre compte qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans ma préparation. Et donc, très rapidement, j'ai mis les pieds dedans, donc les pieds dans le plat. Je ne suis pas allé vraiment fort. Je suis allé toujours avec délicatesse parce que je travaille avec Cyril Fontbonne. Et donc, Cyril Fontbonne, il m'a appris à y aller avec délicatesse. Mais ça ne convenait pas du tout aux entraîneurs. Et donc, tout à l'heure, quand je faisais référence au rôle d'accompagnateur, en fait, il y a quand même une forme d'emprise, mine de rien, parce que justement, quand je veux m'impliquer dans ma préparation, je ressens effectivement que il y a une gêne, et puis que voilà, je suis pas dans mon domaine, donc en fait, je dois plutôt me taire et réciter la partition qu'on m'a confiée. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est le rôle qui nous est donné en tant qu'athlète, et je trouve ça assez dommageable parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui sont assez intelligents pour prendre part à leur préparation, donner des avis pertinents, mais c'est pas toujours le cas. Alors ça s'est modifié un petit peu avec le temps. Quand les groupes sont assez conséquents, je comprends que c'est compliqué pour l'entraîneur de prendre les avis de chacun, et en même temps, pas tous les athlètes sont capables d'intervenir dans leur préparation, donc en fin de compte, il n'y en a que très peu. Mais voilà, c'est pas toujours hyper bien vu. En tout cas, pour moi, ça n'a pas toujours été très bien vu, et c'est quelque chose que j'ai assez mal vécu parce que justement, moi, j'aime m'impliquer dans ma préparation, et ça a souvent été des points de discorde avec les entraîneurs parce que justement, ils trouvaient que j'étais trop pas trop rigoureux, c'est pas le bon terme, mais j'étais trop regardant sur ce qu'ils nous proposaient. Et pourtant, honnêtement, je faisais 99% d'entraînement sans jamais rien dire, mais il y avait quand même des moments où je disais, voilà, ça peut être intéressant peut-être de mettre ça en place. Voilà, c'est exactement ça que je faisais. Écoute, coach, ça peut être intéressant de mettre ça en place, qu'est-ce que t'en penses? Et là, bim, ça partait. Et là, je faisais un petit pas en arrière, je prenais du recul et je disais, écoute, je voulais pas t'offenser, je retourne à ma position d'athlète, je te laisse gérer.
Et en fait, c'est marrant parce qu'en fait, c'était pas forcément contre toi. Enfin, je rebondis sur des discussions que j'ai pu avoir avec justement un entraîneur. Il y a quand même un moment donné un exercice compliqué pour eux de trouver leur légitimité aussi, parce qu'ils ouais. sont face à des sportifs qui sont techniquement bien meilleurs qu'eux, ouais. et donc t'as aussi un équilibre aussi perso de leur côté à trouver, d'asseoir ta légitimité, pourtant, surtout quand t'as en face un groupe ouais. dont certaines personnes qui peuvent remettre en cause ta parole, quoi.
Et justement, nous, on le voit mais vraiment pas du tout comme ça, tu vois. C'est important que tu l'apportes comme ça, parce qu'on y avait déjà pensé, mais on le voit absolument pas comme ça. Demain, en plus, si on choisit d'entraîner avec un entraîneur, ou en tout cas si on nous propose un entraîneur et qu'on accepte, on sait qu'il est totalement légitime, mais à 100%. Et puis on va jamais se dire, ah, mais toi, tu sais pas courir aussi vite que nous, donc pourquoi tu ne... Absolument pas. Alors là, j'ai jamais entendu un seul athlète faire une telle remarque. Donc c'est vraiment de notre côté, c'est hors de question, quoi, de réfléchir de cette manière. Et c'est plus, moi, c'était vraiment plus par rapport à la gestion de l'entraînement. Ça peut être par rapport à la récupération, ça peut être par rapport à la planification, ça peut être des petites questions comme ça qui pour moi sont intéressantes. Elles doivent être prises en compte, en tout cas j'estime qu'elles doivent être prises en compte, mais plusieurs fois j'ai senti que le coach était réfractaire à mon implication dans la planification d'entraînement, et c'est parti au clash parfois, moi je ne suis pas monté, mais j'ai senti l'entraîneur qui est monté assez rapidement. C'est assez dérangeant d'ailleurs, mais voilà, je encore une fois, je prends du recul et puis je le laissais redescendre, je prenais mes affaires et puis je partais, et puis je savais que voilà, j'avais entre guillemets offensé, et je pense que justement c'est une bonne... Tout de suite derrière, je me disais, bon, j'ai l'impression que ça doit être un problème
personnel,
personnel. Là, c'est pas parce que ma question n'était pas offensante, quoi. Finalement, on parlait juste de l'entraînement, de la planification. Moi, je le remets absolument pas en question, mais très rapidement, eux se remettent en question. Alors que c'est pas le but, hein. On parle juste de planification et voilà.
Moi, je vais enchaîner par des questions, mais plus sur le préparateur mental. Donc l'équivalent de l'entraîneur, et donc tu vas aussi nous parler un petit peu de ta relation avec Cyril Fontbonne. Moi, j'aimerais bien que tu nous décrives un peu, selon toi, selon tes propres mots, c'est quoi la mission en fait d'un préparateur mental pour un athlète?
Le but du préparateur mental, c'est alors d'accompagner psychologiquement l'athlète vers la performance et en tout cas faire en sorte que l'athlète soit pas le plus épanoui possible, mais qu'en tout cas il l'aider à trouver une forme de stabilité mentale au travers de l'entraînement et de la compétition. Parce que c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure du climat mental d'un athlète qui peut être très perturbé par ses moments d'euphorie et ses moments de dépression. Et justement, le prépa mental est là pour nous aider à y voir plus clair et à justement trouver un point de stabilité, un point d'ancrage pour être le plus performant possible.
Alors, tu disais tout à l'heure que c'était quelqu'un qui t'en avait parlé dans ton équipe. Toi, avant ça, avant que tu rencontres Cyril, t'avais quelle image des préparateurs mentaux? Est-ce que t'avais des a priori, négatifs ou positifs?
Non, pas du tout, parce que je suis tellement à fond dans ma préparation. Moi, je prends tout ce qui passe, Alors, ouais, tout ce qui passe, positif bien évidemment. Mais on m'a parlé de Cyril. Alors l'athlète en question est guide en e-sport. Il m'a dit tiens, tu devrais discuter avec Cyril. Il est hyper intéressant. C'est un préparateur mental. Trois jours après, j'avais appelé Cyril parce que ça m'intéressait. Je me suis dit, tiens, on m'offre l'opportunité de m'améliorer sur un point que je ne maîtrise pas, la préparation mentale. J'y connais absolument rien. Et puis, ça m'intriguait. Donc, j'ai pris mon téléphone et puis on s'est dû se voir peut-être deux semaines après, quoi, directement.
Tout à l'heure, tu as quand même dit, quand tu as parlé de Cyril, mais pourtant, il y avait rien qui allait mal chez moi. Tu ne l'as pas dit exactement comme ça, mais tu as dit un petit mot comme ça. Mais c'est pour ça que je rebondis là-dessus, ouais. C'est de dire, mais est-ce que tu as besoin de te justifier par rapport à ça? Parce que quelque part, quand tu vas voir un préparateur mental, on peut avoir cette image-là. Les autres peuvent avoir cette image et dire, mais finalement, c'est une défaillance. Ouais. Quoi.
Alors moi, je ne me suis absolument pas posé la question du regard des autres, mais c'est vrai qu'on peut se dire effectivement qu'au bout d'un moment, alors souvent, on envoie les athlètes, c'est ce qui se passe, lorsqu'ils ne sont pas assez performants, lorsqu'ils posent des questions, on se dit, bon, on va avoir un préparateur mental et on va pouvoir travailler avec lui. Moi, ce n'était pas du tout ça. Moi, ça allait plutôt bien. et je me suis juste dit, tiens, un élément supplémentaire pour être encore plus performant. La préparation mentale, donc je ne connais pas, donc je vais y aller.
D'accord, ouais, pour toi, c'était vraiment une strate supplémentaire plus que de consolider des fondations. C'est vraiment libérer des performances. Quoi. Et selon toi, en quoi ils se complètent bien par rapport à l'entraîneur? Tu vois, c'est quoi leur complémentarité?
Alors déjà, Cyril, donc mon préparateur mental, il n'est pas tout le temps à l'entraînement, il est même rarement à l'entraînement, donc il voit pas ce qui se passe à l'entraînement, donc il me voit aussi dans une... On a quand même... Sur la piste, quand on est à l'entraînement, c'est un peu comme en compétition. On bombe un peu le torse, hein. Il faut ouais. Montrer. Alors qu'en plus, on est dans un groupe où on était quasiment que des hommes, donc c'est extrêmement viril. Voilà, il faut montrer qu'on est fort. C'est vraiment le sport par excellence. Un peu
ouais?
Brutus, bah oui, c'est un peu ça. Faut pas se cacher. Mais parce que c'est que ça, c'est sortie de bloc, c'est pousser de la fonte. Voilà, donc c'est que ça. Donc il faut montrer, voilà, qu'on est là. Donc en fait, finalement, à l'entraînement, la posture que tu peux avoir à l'entraînement, alors moi, je ne change pas vraiment de personnalité, mais c'est vrai qu'il faut montrer qu'on est présent, qu'aujourd'hui, on va faire une bonne séance. Et ouais. C'est vrai que quand je suis avec Cyril, je ne me comporte pas de la même manière. Je n'ai pas besoin de montrer que je vais courir vite ou que je suis plus fort que les autres. Donc en fait, Cyril me voit un peu de manière différente. Aussi, moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, là, si on peut évoquer ce sujet-là, mais c'est que c'est vrai que parfois, l'approche des athlètes est assez sommaire ou basique, mais il y a plein de sujets que je ne peux pas aborder avec plein d'athlètes. Mmh. Et en fait, ça, pareil, c'est aussi une posture que je dois adopter, quand je suis dans le groupe. Et donc, du coup, en fait, ça me permet de m'extirper un peu de tout ça quand je suis avec Cyril. Donc, en fait, lui me voit pas réellement comme je suis à l'entraînement. Parfois, il passe à l'entraînement et me voit à l'entraînement, effectivement. Ça lui permet d'avoir des points d'ancrage pour après travailler dessus. Mais on était sur la question du complément par rapport au coach avec l'entraîneur. Moi, j'ai fait l'erreur, honnêtement, de pas tout de suite les mettre en contact. Parce que justement, je voulais qu'il y ait une séparation. C'est pour ça que justement, ta question me posait pas problème, mais je dois quand même réfléchir pas mal dessus. Parce que moi, justement, je voulais pas de ça. Je voulais pas de cette. C'est une erreur hein, de ma part. Mais parce que peut-être parce que j'avais pas confiance en mon coach. Et parce que je
quand tu dis ça, c'est que tu avais peur de la réaction qu'il pouvait avoir.
Non, pas du tout. C'est juste que c'était un travail tellement personnel. En fait, on était rentré dans un travail tellement personnel avec Cyril que je voulais que ça reste ainsi. Et je voulais pas que ça bascule justement sur. Et c'était deux mondes assez différents. Donc moi, je travaillais de mon côté.
Okay.
Et tout à l'heure, y avait Kylian me posait la question du rapport athlète et entraîneur. Moi, en fait, vraiment, ma vision, c'est qu'on a l'athlète qui est au centre et autour, l'athlète compose son staff d'entraînement. Et puis voilà, donc il y a l'entraîneur qui est vraiment le pôle le plus important, qui gravite autour, mais on a aussi un kinésithérapeute, un préparateur mental. On peut avoir un psychologue, on a une nutritionniste, on a les proches. Voilà, donc c'est tout ça qui gravite autour de l'athlète pour faire en sorte que l'athlète soit performant. Et finalement, moi, c'est ma vision des choses. Donc, finalement, quand je vais voir une nutritionniste, j'ai pas forcément besoin qu'elle soit en contact avec le coach, parce que en fait, c'est moi qui régule un peu tout ça.
D'accord, c'est toi qui orchestre. Tu es au centre et tu orchestres.
Voilà. Et c'est là justement
que
parfois,
que
c'est comme ça que je vivais. Et en tout cas, c'est ce que je mettais aussi en avant. Et c'est là justement que ça frictionnait justement avec les coachs, parce que les coachs ont l'habitude d'orchestrer, de tout orchestrer.
Exactement, c'est plutôt eux qui sont le chef d'orchestre.
Et donc, moi, j'avais pas besoin de ça en fait. Moi, j'avais juste besoin d'eux pour la partie préparation physique. Je voulais qu'on m'entraîne, et c'est tout. tout. Après, le reste, je leur disais, moi, je gère, je sais gérer. Et justement, j'y prends goût. Je suis pas là pour, je veux pas être le chef. Hein, je suis pas là à dire, je t'embauche, coach, ou je te remplace. C'était pas le but, hein, du tout. Parce que justement, je pense qu'il représente soit 80% quoi, de ma préparation, 90%, c'est
de la performance. C'est la, ouais, de la préparation, coach, la performance. Complètement.
Et mais après, il y a tout ce qu'il y a autour. Alors, je jette un peu des fleurs pour les 90%, parce que quand on parlait de l'aspect mental tout à l'heure, et l'exemple que j'ai donné, quand on dit prends du plaisir avant la course, ça m'a démoli, quoi. Donc, en fait, finalement, là, je sais, peut-être que c'est du 50-50, mais je sais pas. On n'a pas encore poussé.
Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, enfin, j'ai quand même aussi lu que les coachs, enfin, les entraîneurs pouvaient de temps en temps se sentir mis en compétition des préparateurs mentaux, qu'ils pouvaient avoir la sensation que le préparateur mental venait empiéter sur ses plates-bandes. En tout cas, pas tous les entraîneurs, mais un certain nombre d'entraîneurs. Donc, il y a quand même encore cette image-là. Ouais. Et peut-être que c'est aussi ça qui a fait que tu ne les as pas mis forcément en contact, c'est que tu as voulu saucissonner. Ça me fait
finalement,
aussi...
ils sont rentrés en contactant.
Au final, oui, mais peut-être tu l'as pas fait de prime abord, créer une situation de conflit ou de tension, quoi.
Alors c'était pas voulu, mais c'est fort probable, parce que effectivement, alors on a des coachs qui ont énormément de compétences, parfois peut-être même trop, et donc du coup en fait
ils peuvent tenir ce rôle-là aussi, peut-être, non?
Alors honnêtement, je sais, je suis pas, il y en a certains qui peuvent. Mais les meilleurs que j'ai pu côtoyer, qui n'ont pas forcément été mes coachs, mais les meilleurs que j'ai pu côtoyer, justement, avec cette capacité à comprendre qu'eux étaient bons dans ce domaine-là,
oui.
Ils
ne
cherchaient pas à être bons ailleurs. Ils sont bons dans la préparation physique, ils ont des grosses notions de préparation mentale, ils s'y connaissent en nutrition, ils sont vraiment en béton. Mais
ils vont chercher l'expertise à côté, quoi.
Ouais, ils disent tout de suite, écoute, moi, on essaye de travailler là-dessus si tu veux, c'est pas mon domaine, tu le sais. Donc moi, si tu veux, on travaille dessus, mais très rapidement, je vais t'orienter vers un autre professionnel parce que lui, c'est vraiment son domaine. Et en fait, ça, les meilleurs coachs, c'est ce qu'ils font. Honnêtement, c'est ce qu'ils font. Et c'est là qu'en fait, en plus, tu fidélises, on n'est pas dans du marketing, mais tu fidélises quand même l'athlète, parce que là, moi, je sais qu'avec ce coach-là, je vais avoir une mine d'informations sur plein d'autres sujets, et là, ça m'intéresse. Je peux lui faire confiance à 100%. Alors qu'effectivement, si je suis avec quelqu'un qui veut tout maîtriser à 100%, là, ça peut être un risque, parce que de moi-même, je vais me dire, tu peux pas maîtriser tous les domaines.
Oui, puis il y a une notion aussi d'omnipotence, quoi. C'est-à-dire que tu disais aussi tout à l'heure par rapport au préparateur mental qu'il est pas là sur la piste. Et je crois qu'il y a quand même, et Cyril le disait, qu'il y avait une notion d'autonomie. Il faut faire en sorte que l'athlète soit autonome.
Ouais, complètement.
Et qu'il ne devienne pas dépendant, comme si on était une béquille nécessaire à être là. Et ça me fait penser, j'avais vu un reportage sur une athlète américaine. Et qui a eu un scandale parce que justement sa préparatrice mentale était tout le temps sur la piste et elle a fini par s'en détacher de cette préparatrice mentale, et aujourd'hui elle en parle avec beaucoup de mots négatifs en disant qu'elle avait eu une emprise telle sur elle qu'elle n'avait plus réussi à s'en détacher. Jusqu'à
ça arrive, bah justement avec les coachs ça arrive, parce qu'en fait le problème, c'est que, alors moi, je note tous mes entraînements, ça m'intéressait directement. Donc, dès que je suis rentré à l'INSEP, moi, j'avais mon Excel, et puis dès qu'on faisait une séance, je la notais directement. Je gardais tous mes plans d'entraînement de toutes les années. Donc, je savais exactement ce qu'on allait faire, quasiment, presque jour par jour. Mais parce que justement, moi, ça m'intéressait. Et puis, en fait, je faisais ça aussi, limite par peur, parce que je me disais, mais demain, si j'ai plus de coach, si je me fais larguer, comment je fais, parce que si y a un moment de transition, ou si la fédération me met la pression, je me dis au cas où aussi j'ai des séances, et puis comme ça je vais pouvoir, je serai en autonomie. Et puis ça m'est arrivé là, sur
les... après c'est ta personnalité, c'est aussi, j'ai l'impression que tu veux maîtriser le truc.
Parfois j'aime bien aussi ça, j'ai aussi commencé comme ça l'athlétisme là en Belgique. Mon premier entraîneur était prof à l'école, donc en fait il dans une école, donc parfois il pouvait pas toujours être là. Comme j'avais que deux ou trois entraînements par semaine, parfois il y avait des jours où j'arrivais sur la piste, en plus comme c'était des flamands, parfois la communication était pas parfaite, et j'arrivais sur la piste et il y avait personne, le stade était fermé, parce que je savais pas que c'était un jour férié, ou je sais juste qu'il y avait pas entraînement aujourd'hui. Ce que je veux, c'est que j'escaladais la piste. Je me souviens, parfois même en hiver je faisais ça, la piste était enneigée, j'escaladais les barrières, le stade était noir. Je faisais quand même ma séance, quoi. Je faisais mes 18 fois 150 mètres tout seul, et puis je mettais ma musique sur le côté, ou même pas, je faisais mes trucs, je remontais dans ma voiture, je repartais à la maison, et puis s'il fallait le refaire, je le faisais. Donc en fait, moi, ça me dérangeait pas de faire ça. Là, à l'INSEP, parfois, quand on faisait une séance, je trouvais qu'on avait pas assez travaillé. Moi, j'allais ouvrir le coffre du groupe, je prenais des plots, et puis je répétais, parce que pour moi, on n'en avait pas fait assez, quoi.
Mais j'avais pas un profil très autonome, quoi.
Ouais,
et tu peux nous décrire, mais un peu ce que tu fais avec Cyril, justement. Enfin, juste qu'on se projette aussi, c'est quoi le travail avec un préparateur mental ? Parce que je pense honnêtement que tu connais pas, enfin, quelqu'un comme moi par exemple, peut imaginer que c'est des séances de psy. C'est-à-dire, tu te mets sur un canapé, tu discutes, et je pense que c'est pas du tout ça. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer, toi?
Quelque part, c'est un peu ça aussi. Alors, pour vous dire un peu, par exemple, comment ça peut être un rendez-vous, les premiers qu'on a eus, c'était dans son bureau. Donc, c'était pas formel. Donc, c'est une discussion. En fait, on peut aborder différents sujets. Souvent, ça peut tourner autour d'une problématique particulière que je peux évoquer, donc on peut travailler dessus. Moi, je me souviens que le premier truc qu'il m'avait fait faire, c'était ma ligne de vie. Donc, il m'a dit, pour me connaître, il m'avait demandé de juste me faire une ligne de vie. Et puis, à la prochaine séance, de lui rapporter. Ça permettait de voir un peu ce qui ressortait. Mais en fait, très rapidement, je ne sais pas s'il travaille comme ça avec tout le monde, mais en fait, c'est vraiment plus une discussion. Parfois, on peut se dire, rendez-vous, il va me dire, je suis à tel endroit dans Paris, t'es libre, on se fait un restaurant, on discute. Et ça devient une conversation amicale, mais dans laquelle on glisse du... Faut pas que ce soit formel. Enfin, en tout cas, pour nous, il n'y a pas besoin d'être formel, quoi. Peut-être parce qu'il sent que je suis autonome, ou en tout cas, c'est comme ça qu'on a développé notre relation de travail. Mais c'est pas... j'ai pas besoin d'avoir un crayon, un papier devant moi.
Oui, c'est pas l'école, quoi.
Voilà,
et est-ce que t'as des exercices? Je sais pas, on dit que les préparateurs mentaux peuvent travailler... Les préparateurs mentaux, pardon, peuvent travailler sur de la visualisation, de la l'hypnose. Enfin, tu vois, il y a différentes techniques qui peuvent être utilisées. Est-ce que ça, c'est des choses que t'as eu l'occasion
Oui, exactement. Il m'a donné pas mal d'exos de respiration. Alors, comme je faisais en plus un peu de yoga avant, je m'intéressais un peu à tout. Donc, en fait, il avait juste besoin de me dire, tiens, ça t'intéresse, va regarder.
D'accord.
Donc, par exemple, pour la visualisation, il n'a pas eu besoin de me mettre sur un canapé et de me dire, tiens, tu t'imagines avec une voix très douce. Il m'a dit tout bêtement, il a sorti un article, il m'a dit, tiens, tu sais qu'il y a une étude, parce qu'il sait très bien que j'ai besoin de ça en plus pour valider le truc. Il m'a dit, il y a une étude qui montre que tu stimules les mêmes zones sensorielles et cérébrales lorsque tu visualises. J'ai dit, ok, super intéressant, passe-moi l'article, je regarde. Et puis en fait, voilà, c'était juste le moyen pour lui, il sait que c'est comme ça que ça fonctionne, donc il m'a mis un truc dans la tête, un peu comme Inception, là, et il m'a dit, tiens, tu vas regarder ça, intéresse-toi à ça. Et en fait, de cette manière, il sait très bien qu'en fait, quand on va l'aborder plus tard, je serai déjà conquis.
On aura déjà la matière,
voilà,
quoi.
Exactement. Ouais. Et en fait, du coup, après, il a juste besoin de me dire, n'oublie pas, là, t'as une compétition à tel endroit, n'oublie pas ta visualisation, visualise le stade, visualise la piste, visualise la foule, même aussi, il n'y a pas de public, parce que souvent, on fait de l'athlète, il n'y a pas de public, hein, c'est pas du football. Et voilà, il m'a dit, visualise tout, l'odeur, les sensations. Et je vais le faire par moi-même, en fait. Donc, en fait, il a pas besoin d'être derrière moi tout le temps.
Ouais, ouais.
Il trouve que je l'appelle pas assez, mais en fait, honnêtement, je crois que toutes les semaines, j'ai une pensée pour... Parce que tout le temps, ça me...
Bah, tu vois, en tout cas, on aura bien parlé de lui. Hein.
On aura parlé de lui, ouais. Donc...
C'est intéressant parce qu'une nouvelle fois, on voit toute ton autonomie. Tu nous disais la relation entraîneur-entraîné où c'était toi, t'aimais bien rajouter de tes idées. Et là, une nouvelle fois, on voit ton autonomie parce que... il avait juste besoin de te dire, tiens, il y a cet outil-là, pense à l'utiliser, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. Bah, c'est exactement ça, en fait. C'est ce qu'il fait. Il m'a très, très rapidement compris. Donc, c'est un excellent professionnel. Je vends de ses mérites, là, mais il est excellent parce qu'il m'a très rapidement compris. Et puis, de toute façon, avec un préparateur mental, je pense qu'il faut qu'il y ait une alchimie, parce que sinon, ça marche pas. Et puis, on a du mal à se confier. Et donc, du coup, il avait juste besoin de me donner quelques outils pour que je les mette en place. Et puis, ça me sert à chaque fois dans mes entraînements et puis lors de mes compétitions. C'est hyper utile. Et puis, mais c'est dommage parce que, finalement, moi, j'ai pas eu. Alors, c'est un athlète qui me l'a proposé, mais c'est vrai que moi, c'est pas mon coach qui est venu vers moi et qui m'a dit tiens, ou qui a dit au groupe, vous savez, vous pouvez aussi travailler sur l'aspect mental parce que je sens que il y a un peu de tension en ce moment, je vous sens pas au top. La préparation mentale, ça aide aussi à atteindre un autre stade de la performance. Et ça, je l'ai pas eu. J'ai pas eu ces recommandations-là. C'est un autre athlète qui me les a donné. Donc, en fait, ça, c'est pareil. C'est peut-être une petite lacune qu'on a ici de penser que la préparation mentale comme la psychologie c'est pour les faibles.
On est un peu en retard, enfin, d'après ce que je comprends en France par rapport à d'autres pays où la préparation mentale est vachement plus présente. Juste une dernière question sur la préparation mentale. Selon toi, quels sont les bons ingrédients pour que cette relation soit efficiente?
Alors, moi, j'en ai eu qu'un seul. J'ai été fidèle et ça a marché direct. Donc moi, la chose qui me frappe là, c'est vraiment le faut qu'il y ait une alchimie. On s'est rencontrés, on a discuté, ça a bien fonctionné. Il m'a tout de suite compris. Il n'a pas forcé les choses, hein. il n'a pas eu besoin de m'appeler 15 fois. Mais tout de suite, j'ai réussi à me livrer. Et puis en fait, voilà, maintenant, il me suffit juste de lui passer un coup de fil ou de lui envoyer un message. Et puis je sais qu'il va me répondre. Il ne me répondra pas forcément dans la foulée, mais je sais qu'il aura vu mon message. Et en fait, même le fait de lui envoyer un message, même parfois, je n'ai pas besoin d'avoir une réponse, mais je sais qu'au moins, il est au courant de voilà, mon état mental et psychique. Donc ça, pour moi, c'est important. En fait, ça reste un socle hyper important pour moi. Donc c'est vraiment ça. Il faut que ça soit direct. Hein. Il ne faut pas la créer, il faut pas se forcer, et finalement c'est comme ça avec le coach. Le problème du coach, c'est que finalement, par exemple, pour dans mon cas, le coach est rattaché à l'INSEP, donc s'il n'y a pas cette alchimie,
t'as pas le même choix, quoi.
J'ai pas le même choix, ouais, et ça peut être problématique, parce qu'en fait le jour où il y a cette alchimie avec le coach, là c'est là où il y a des athlètes qui pètent le plafond, parce que justement là ils sont dans un climat qui est idéal, quoi.
Ok, alors avant de repasser la parole à toi, Kylian, sur la partie transition de suite carrière, tout à l'heure, je n'ai pas posé des questions, deux petites questions sur le très concret. Quand tu es sportif de haut niveau, tu es quoi? Tu es salarié? Est-ce que tu as... Enfin, tu vois, t'as quel statut, en fait?
On pouvait être sous contrat avec des sponsors. Généralement, c'est ça qui permet de
d'accord,
faire
donc
t'es
pas salarié, mais t'es ok.
On a des contrats, ça dépend des athlètes, mais ça peut être 2, 4 ans, voire plus long pour certains, pour les meilleurs, avec des sponsors. Donc on peut les cumuler. Et puis la fédération a mis en place aussi pour le relais, pour les individuels, un CDI.
Ah d'accord, quand même. Okay.
Ouais. Mais le problème, c'est que si on en sort ou si on est blessé, le CDI il saute direct. Quoi. Donc en fait, ça reste quand même assez précaire. Hein. La plupart des athlètes.
Et est-ce que tu as besoin de faire une autre activité, tu vois, pour vivre, pour compléter?
Alors moi, j'ai pas eu besoin d'en faire une autre,
Mais parce que le sponsoring a pris.
Oui, voilà, c'est
un
ça,
point
exactement.
Important.
Mais si ça,
okay, mais ça,
si...
ça dépend de ton niveau. Donc,
voilà, exactement. Ouais, il suffit d'avoir une place ou deux en dessous et en deçà, et ça c'est complètement. On peut pas en vivre. Ah, et ouais. Pourtant, la performance est quasiment même. Je peux parler d'un dixième de différence, un ou deux dixièmes avec un athlète. Alors c'est beaucoup de dixièmes, mais un athlète qui finalement a le potentiel d'être en équipe de France peut ne jamais en vivre, quoi. Alors ouais. Que pourtant il a un potentiel qui est extraordinaire
et que les efforts sont les mêmes. L'énergie passée,
même plus, parce ouais. que lui a besoin de justement travailler ouais. à côté pour subvenir à ses besoins ou de continuer ses études, parce qu'il sait très bien que ça va pas perdurer. Donc en fait les efforts sont les mêmes, voire plus conséquents, et en plus il est pas forcément à l'INSEP. Mmh. Donc il a pas quand il veut faire kiné, dodo, manger et aller à la balnéo. Nous, on y va aux chaussons. Et nous, parfois, ça nous arrivait le soir, on avait les clés de la balnéo, il est 23h et puis on n'est pas envie de dormir. On se dit, bon, les mecs, qu'est-ce qu'on se fait? Bon, venez, on va se faire une balnéo tranquillement pour récupérer pour demain. Voilà, ça, c'est notre truc, quoi. Ouais. On y va aux chaussons, en pyjama, et on est dans la balnéo. Mais sauf que, bon, voilà, on a de la chance, quoi. Un athlète qui a le même potentiel que nous, il ne vit pas les mêmes choses, donc il n'a pas les mêmes chances.
Ouais, et puis, bon, tu parlais effectivement de comment se passe la fin, quoi. Enfin, c'est-à-dire la transition vers la fin de ta carrière de sportif. Je crois que Kylian, tu avais des questions par rapport à cette partie-là.
Oui, parce que tu nous as parlé, tu as dit que tous les athlètes ne peuvent pas en vivre. Et ça devient encore plus difficile quand on arrête sa carrière. Jusqu'à quel âge, à peu près, on peut rester athlète?
Alors, grâce à la récupération, grâce à une meilleure planification maintenant d'entraînement, et une meilleure compréhension aussi de l'athlète, honnêtement, on peut pousser quand même très loin la machine. Il y a des athlètes, enfin des Américains, je sais pas si c'est les meilleurs exemples, mais il y a des Américains qui arrivent à pousser la machine jusqu'à 35 ans. Honnêtement, je pense que c'est largement faisable physiquement. Mais après, c'est vraiment l'aspect mental qui joue. Il faut continuer à prendre du plaisir. Ça dépend aussi du groupe d'entraînement, ça dépend de l'entraîneur, ça dépend de la situation familiale. Voilà, ça dépend de plein de facteurs, sachant qu'en plus on va en baver toutes les semaines, donc ça c'est important d'avoir une situation stable et une atmosphère saine. Donc en fait, je pense honnêtement que la machine peut être poussée pendant très très longtemps. Et pendant de nombreuses années, donc je pense qu'honnêtement, au-delà des 30 ans, c'est largement faisable. Mais après, voilà, ça tout dépend de l'athlète et de son envie. Voilà, tout dépend de chacun, finalement.
Et comment est-ce qu'on prépare la suite?
Alors, il y en a beaucoup qui continuent leurs études. Alors après, moi, j'ai toujours la sensation que ceux qui ont continué leurs études à quasiment à 100% ou qui ont aménagé, l'ont ressenti sur leur performance. les plus performants, généralement, ne font pas d'études à côté. En tout cas, c'est ce que j'ai pu noter. Parce que ça prend trop de temps et parce qu'il y a aussi des revenus qui sont conséquents, donc on peut se permettre de s'arrêter. On y pensera plus tard, en gros, c'est ça. Et puis tous ceux qui, justement, ont continué, ils vont être dans le relais ou ils vont avoir du mal à se qualifier en équipe de France. Voilà, donc il y a vraiment, il y a quand même un petit décalage par rapport à ça, mais c'est tout à fait compréhensible parce que voilà, étudier, ça demande aussi un effort assez conséquent. Et en même temps, quand on fait deux séances par jour, c'est compliqué. Il y en a aussi certains qui vont pousser la machine jusqu'au bout sans forcément continuer leurs études. Et puis voilà, dans les derniers mois, en fait, ils se rendent compte que c'est plus l'athlétisme, c'est plus leur truc, ou en tout cas le sport de haut niveau. Et donc ils vont choisir une filière ou une formation. Ils vont faire une formation rapide pour pouvoir s'extirper un peu du milieu sportif ou en tout cas assurer leur reconversion. Je ne sais pas si c'est la meilleure chose à faire, mais en tout cas, c'est des gens qui ont profité de leur carrière et au final, on peut pas leur. Je pense que c'est une bonne chose aussi, quoi. Il faut savoir en profiter aussi un maximum parce que c'est une vie quand même qui est particulière. On a un statut particulier et c'est une chance, quoi. Donc, je suis favorable au vas-y à fond, quoi. C'est ça.
Est-ce que c'est un peu comme le début d'une seconde vie ?
Ah ouais, complètement. Alors moi, peut-être qu'on y reviendra après, mais mon objectif, c'est de faire les Jeux depuis que j'ai 4 ans, c'est ça. Je discutais de ça avec ma compagne en plus la semaine dernière, et moi je disais, je sais que j'ai énormément de chance, parce que pour moi, en fait, ma première partie de vie, en tout cas là, j'ai 27 ans, ben, je l'ai réussi, quoi. Moi, c'est ce que je me dis tous les matins, je me dis quand même, j'ai de la chance parce que j'ai vraiment fait ce que j'avais envie de faire. J'ai que 27 ans, et à 23 ans, j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Et d'ailleurs, après, il y a eu une espèce de manque, parce que je me disais, mais maintenant...
C'est quoi la suite, quoi ?
C'est quoi la suite ? Parce qu'en fait, on m'a toujours dit que tu pourrais pas être athlète de haut niveau. Bah, finalement, je l'ai fait, donc déjà, ça, c'était réussi. Déjà, pour moi, c'était déjà trop, en fait, d'arriver à l'INSEP. Je me disais, c'est pas possible. J'étais en Belgique il y a encore quelques temps, là, on me parlait pas d'athlétisme, et là, je suis à l'INSEP, c'est déjà extraordinaire. En équipe de France, bah, alors là, c'est pas possible, ça, c'est extra. Je disais à mon coach, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire, en Belgique, quand j'ai commencé l'athlétisme, ce serait quand même pas mal de pouvoir faire d'être dans le relais 4 fois 100 mètres, ça serait extraordinaire. Il me disait, ouais, ce serait super, Stuart, avec son accent de belge, là. et 2 ans après, je suis dans le relais, et puis on est médaillé au championnat d'Europe. Donc ça, c'est pareil. Je me dis, mais c'est trop, c'est pas possible. Et puis après, les Jeux Olympiques, la même année. Bah, en fait, et donc, en fait, finalement, je me dis, en fait, j'ai vraiment fait tout ce que je voulais faire, quoi. Je peux pas demander plus. Certains me diront, oui, mais il y a la médaille olympique à aller chercher, un machin. Non, c'est limite aller trop loin. Et c'était pas ça l'objectif. L'objectif, c'était d'être professionnel, de faire les Jeux. J'ai fait championnat du monde, j'ai couru avec les plus grands, c'est vraiment tout ce que je voulais, quoi. Donc en fait, moi, j'ai réussi.
Quoi, t'as atteint ta cible, quoi.
J'ai atteint mon truc, quoi. Et j'ai fait même plus, beaucoup plus que ce que je pensais pouvoir faire. Parce que justement, on a mis dans la tête que je pourrais jamais faire tout ça, quoi. Parce que c'est un peu, on est en France et le sport, c'est pas forcément toujours mis en avant. Donc on m'a toujours dit, c'est pas, encore une fois, le sport, c'est pas un métier, c'est pas possible, quoi. Oublie, fais autre chose.
C'est bien tout l'objet de cet épisode, pour montrer que c'est pas vrai du tout.
Exactement.
Oui, justement, comment est-ce que tu vois la suite pour toi, ta deuxième vie ?
Ben alors, on est dans l'atelier Move, et donc c'est c'est ma petite salle de musculation qui se trouve à Bastille, que j'ai ouverte en janvier. Et en fait, donc c'est à destination des coachs. J'ai créé un petit espace que les coachs peuvent louer pour recevoir leurs clients. Et donc ça, c'est mon petit projet que j'ai en tête depuis plusieurs années et donc que j'ai lancé parce qu'en fait, il y avait un petit moment de lassitude après le confinement ou pendant le confinement. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment. Le confinement, c'est un petit signe, le Covid, là. C'est maintenant qu'il faut se lancer. Donc voilà, je me suis lancé. Il y avait des locaux qui étaient disponibles. J'en ai récupéré un et puis j'ai lancé mon activité. Donc voilà, je suis à la recherche de coach pour continuer à louer mon espace de coaching et recevoir leurs clients. Donc voilà, moi, j'ai déjà commencé ma reconversion, en fait, finalement. Mais je suis très autonome aussi là-dessus. J'ai pas attendu qu'on valide mon projet. Je me suis lancé et puis voilà, je pense qu'il ne faut pas se poser de questions. C'est un peu comme dans l'athlète. Je fonce un peu dans tous les sens et puis voilà, quoi, je vois ce qui se passe après. J'essaie de maîtriser au mieux en tout cas.
Et tu te fixes une nouvelle cible là, un nouvel objectif ? Pas forcément par rapport justement au sport, mais dans ta vie en général ?
Bah, honnêtement, là, le fait d'être dans l'atelier, ça me déjà le cercle social s'est quand même agrandi, très nettement. Je prends plus de temps pour moi aussi, donc ça c'est important. Et puis bon, il faut aussi parler franchement. Il y a aussi de l'investissement ici, personnel et financier. Donc je fais aussi attention à ça. Le but, ça reste quand même de développer l'atelier. Quand j'ai du temps, là, je retourne à l'entraînement. Mais pour l'instant, là, ça fait que quelques mois qu'on est ouvert, que je suis ouvert. Donc finalement, je me concentre vraiment là-dessus.
Ouais.
Et si ça devient finalement, ça me permet de de procéder à ma reconversion.
Bon, on sent qu'on est dans un entre-deux quand même, parce que tu continues d'aller à l'entraînement,
ouais,
etc.
Ouais, carrément,
donc,
je me pose encore des, je me pose
de
encore des questions, phase de transition, et finalement que je n'ai pas choisi. Mais elle est venue à moi parce qu'il y a eu le Covid et parce qu'en fait, il y a eu une opportunité que j'ai saisie, comme l'INSEP finalement. Et je ne voulais pas forcément changer de statut ou arrêter ou penser à arrêter, mais ça s'est juste présenté à moi. Et en fait, je pense que quand on a l'occasion de se reconvertir, il ne faut pas attendre parce que quand ce n'est pas nous qui choisissons la période ou le moment, ça peut être extrêmement brutal.
Ouais.
Et donc, du coup, moi, je me protège aussi un peu de ça. Donc, je préfère tout de suite préparer
contrôle,
un peu.
En fait, tu prends le manche,
voilà,
du truc. Ouais.
Voilà, exactement. Donc, c'est exactement ça.
Ok. Kylian, est-ce que tu as des questions avant qu'on conclue ?
Et cette peur de changer, de ne plus avoir cette adrénaline, est-ce que c'est pour ça que tu veux déjà préparer quelque chose ?
Alors, c'est pas tant par rapport à l'adrénaline, c'est pas tant par rapport à la compétition. Je pense qu'on devient aussi, en vieillissant un petit peu, même si je suis encore jeune, on devient aussi raisonnable.
Merci de le préciser, s'il y a des gens beaucoup plus vieux dans cette salle.
On devient raisonnable et il y a aussi l'aspect financier qui rentre en jeu. Il y a eu la période de Covid qui n'a pas été très très bonne pour les athlètes. On a aussi perdu pas mal de sponsors. Donc en fait, au bout d'un moment, il y a aussi l'aspect financier qui rentre en compte. Et dans l'athlétisme, on n'est pas non plus hyper bien rémunéré, mais après, ça dépend aussi des sports et de la visibilité qu'on a. Il y a des sports qui sont bien moins lotis que nous. Et donc, finalement, je préfère assurer mes arrières. En fait, c'est le moment de se reconvertir et je saisis l'opportunité dès maintenant en espérant que ça marche. Voilà. Mais c'est pas tant par rapport à l'adrénaline. Ça, c'est, j'en ai tellement eu finalement qu'au bout d'un moment, alors on s'habitue jamais, mais c'est, j'ai pas peur de ça. Finalement, ça me préoccupe pas tant que ça. Enfin, je te dis ça maintenant, mais il y a quelques mois, je disais pas la même chose. Mais là, en tout cas, j'ai pris du recul par rapport à ça et c'est pas ça le plus important finalement. J'en ai déjà bien profité, quoi.
Bon, alors tu vas passer désormais à la moulinette de mes petites questions mitraillettes. Alors, est-ce que tu as une anecdote drôle, insolite, émouvante que tu aurais vécue dans le cadre de ton métier ?
Émouvante, oui. Alors, moi, c'est mon anecdote préférée et elle est même pour moi, là, quand j'en parle, je suis toujours ému. Mais je me souviens être rentré sur la piste au Brésil pendant les Jeux de Rio. J'avais obtenu des places pour mes parents qui étaient venus me voir. Et en fait, quand je suis rentré sur le stade, il y avait quand même pas mal de monde dans le stade. Mais dès que j'ai posé le pied sur la piste, j'ai levé la tête et les premières personnes que j'ai vues, c'était ma mère, mon petit frère et mon père dans le stade qui gueulaient comme pas possible. Et en fait, c'est marrant parce que c'est les premières personnes que j'ai vues dans le stade en rentrant dans le stade. Et pourtant, ils étaient loin de moi, quoi. Mais c'est les premières personnes que j'ai vues. Et
en fait,
ça m'a frappé.
Connecté, quoi.
Ouais, c'était ça, exactement. Et en fait, ils ont vu en plus que j'ai ma mère et on s'est croisé du regard directement. Et en fait, là, ça m'a marqué, quoi. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a donné de la force en plus. J'étais un peu stressé et ça m'a tout de suite détendu. Mais ouais, c'était fou. Ça m'a vraiment marqué. Ça me marque toujours. Et quand j'en parle, je suis toujours un peu ému.
Ah, puis en plus, quand tu dis toi l'entrée du stade de Rio, ça doit être, dingue de vivre un truc comme ça.
J'avais bu 10 litres d'eau 10 minutes avant. Je suis rentré, j'étais pâteux comme pas possible. C'était tellement émouvant, stressant. Il y avait de l'euphorie. Je ne sais même plus ce qui se passait, quoi. Et puis après, bon, faut rester concentré. Mais il y a eu quelques moments là où j'étais un peu perdu émotionnellement parce que c'était gros, quoi. C'est sympa d'être arrivé là-bas.
Ouais, conscient de vivre, d'avoir la chance de vivre ça.
Exactement,
quoi.
C'était ça.
Et alors, quelles sont tes joies, justement, tes fiertés de l'exercer ce métier ?
Bah, écoute, c'est le fait d'être en équipe de France. On sait qu'on appartient à une forme d'élite sportive. Et je pense que c'est ça le plus gratifiant, garder sa place, obtenir sa place et garder sa place en équipe de France. Mmh. Et puis savoir qu'on est reconnu comme sportif de haut niveau, c'est aussi un vrai plaisir. Et puis c'est une vraie satisfaction pour nous, pour notre famille, pour nos proches, nos amis. Moi, quand on me présente, on dit toujours c'est lui qui a fait les Jeux d'ailleurs, mais tout le temps en fait, tout le temps. Et c'est gratifiant parce que moi, quand je me présente à quelqu'un, je dis pas oui, bah d'ailleurs j'ai fait les Jeux, hein, tu le sais, ou Boulanger. Mais quand je suis avec un proche, voilà, il va toujours dire mais tu sais qu'en plus, c'est gratifiant, c'est toujours sympa.
Bien le croire, effectivement. Bon, et l'inverse, il y a aussi des difficultés. Et du coup, quelles sont-elles, en fait, dans ton métier ?
Ça, on l'évoque pendant l'interview, mais je pense que c'est le, le milieu social, ou en tout cas le cercle social qui est très restreint pendant toute notre carrière, ou en tout cas on arrive à le développer un petit peu, mais au début il est assez restreint, et je pense que ça c'est assez compliqué parce qu'on s'enferme dans une bulle, et puis c'est difficile d'en sortir. Toutes les personnes avec qui on s'entraîne sont des proches, mais ce sont aussi des concurrents, donc c'est vrai qu'on a parfois un peu du mal à développer une véritable amitié, et puis c'est difficile d'aller en chercher d'autres parce qu'on n'a pas le temps de sortir, on sort pas en boîte, on boit pas de verre, donc c'est compliqué.
Donc en France c'est compliqué.
Voilà, c'est compliqué.
Ok. Alors, selon toi, quelles sont les qualités pour être un très bon sportif de haut niveau?
Alors j'allais te dire qu'il faut savoir repousser ses limites, mais c'est pas du tout ça. Il faut d'abord comprendre ses limites pour pouvoir mieux les exploiter. Je pense que c'est vraiment ça la force du sportif de haut niveau dans toutes les disciplines. Et puis avoir aussi une bonne maîtrise de son mental, d'où l'importance d'avoir un Cyril Fontbonne, donc un préparateur mental à côté de soi et avec soi. Mais je pense réellement qu'il faut être capable de maîtriser ses émotions et de comprendre ses limites, voilà, pour pouvoir toujours se repousser, enfin les repousser un peu plus loin.
Ouais, et puis avoir une sacrée dose de persévérance, volonté, d'esprit de compète. Moi je rajoute, hein, parce que voilà, sincèrement, il y a quand même pas mal d'autres ingrédients, quoi. Quel conseil tu pourrais donner à un jeune qui veut embrasser cette carrière-là, alors Kylian n'a pas l'air de vouloir aller jusqu'à ce niveau-là et plutôt s'orienter vers
le journalisme.
Mais sinon, sur d'autres personnes qui pourraient nous écouter?
C'est de, contrairement à ce que j'ai fait ou les conseils qu'on a pu me donner, c'est j'ai toujours cru en mon potentiel. Et j'avais toujours ce désir d'être sportif. Et donc, en fait, lorsqu'on a un objectif ou un but, et peu importe que ce soit sportif ou pas ou autre, c'est de faire tout son possible pour y arriver. Peu importe la discipline, peu importe son milieu social. Moi, je m'entraîne avec des gens qui viennent de tous les milieux sociaux. Et puis, chacun a réussi à atteindre son objectif parce que, voilà, ils ont travaillé, ils se sont concentrés sur leur objectif à 100% et ils n'ont jamais rien lâché. Donc voilà, c'est la persévérance, il faut persévérer.
Puis de ton parcours, moi je retiens aussi que se fixer des objectifs qui paraissent inatteignables et peu importe ce qu'on t'en dit à côté, quoi, aussi.
Ouais, c'est pour ça que je dis ça, en fait.
On a beau te dire que tu n'y arriveras pas et non, en 2 ans, c'est pas possible.
Mais je pense que c'est le discours qu'on tient à beaucoup d'athlètes finalement et c'est pour ça, en fait, que je parle de ça, c'est vraiment persévérer parce qu'on va s'en manger, quoi, des commentaires, que ce soit même des proches, parce que tout le monde essaie d'être réaliste et de nous protéger. En fait, c'est une façon de nous protéger aussi. Ne t'inquiète pas, tu n'y arriveras pas, mais c'est pas grave, tout le monde a essayé, mais en fait non, il faut rester concentré. Mm-mm. Et puis qu'on y arrive ou pas, au final au moins on aura tout donné, quoi. Moi c'est ce que je me dis à chaque fois.
Ça c'est vraiment un tempérament de sportif, je pense. Quel conseil d'orientation, tu vois, plus global, tu pourrais donner ou qu'on t'a donné et que tu souhaiterais transmettre aujourd'hui? Et là, donc, ça dépasse vraiment ton métier, hein. C'est tous les jeunes qui cherchent une voie.
Alors, justement, c'est le conseil qu'on ne m'a pas donné, mais c'est de croire en mon potentiel. Et parce qu'à chaque fois aussi, on nous donne un conseil qui, je pense, est faux, mais on nous dit à chaque fois qu'on ne fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie, ce qui est vrai. Mais on a aussi le choix, je pense, quand on est jeune, parce qu'on est quand même dans un pays, on a la chance de pouvoir faire plein d'études. On a accès à énormément d'études. Et donc, du coup, je pense qu'il nous manque ça ici, de pouvoir vraiment réaliser nos rêves. Et puis, ça peut être, moi, je me souviens que j'avais des copains en classe quand j'étais en 6e qui dessinaient, mais merveilleusement bien. Et on leur disait que faire du dessin, ça menait à rien. Il y en avait qui étaient excellents en musique, mais la musique, ça mène à rien. Le sport, dans mon cas, et en fait, c'était tout le temps ça. Alors qu'en fait, non, on a besoin de personnes qui dessinent merveilleusement bien, on a besoin de chanteurs, d'être de personnes qui aiment le théâtre, peu importe. Et donc, en fait, il faut, je pense, s'accorder un temps, surtout quand on est jeune, de développer son potentiel, quoi. Et donc voilà. Et je cite une personne, là, je regardais une interview, qui disait qu'il ne faut pas chercher à réussir dans la vie, mais qu'il faut chercher à réussir sa vie. Et en fait, c'est vraiment ça, son objectif, son potentiel, et puis il faut apprendre à le développer, et il ne faut pas vraiment rester dans un carcan où il faut faire une école classique comme tout le monde ou comme ses camarades. Si on aime la musique, il faut tester, quoi. Il faut essayer.
Donc apprendre à se connaître aussi, quoi, et à s'écouter.
Oui, complètement.
Ça, c'est super important. Je peux être que d'accord avec toi. Stuart, si on veut te contacter, on fait comment?
Sur Instagram, Stuart Dutambi.
Super compte avec des photos de dingue, je précise.
Non, mais sur Instagram, Stuart Dutambi ou Atelier Move, dans l'atelier dans lequel on se trouve. Voilà, on peut me contacter, je répondrai assez rapidement.
Écoute, un grand merci, vraiment, Stuart. Merci, c'était un super moment.
Merci.
Merci de t'être prêté à l'exercice qui n'est pas forcément évident et surtout en duplex de Front-Romeu avec Kylian. Et puis pour vous expliquer, depuis tout à l'heure, je me marre parce que je suis sur un ballon. Je suis en train de faire l'interview sur un ballon, j'ai l'impression d'être à Monaco.
travail de proprioception et de bassin, c'est parfait, c'est excellent.
Et en fait, je râlais tout à l'heure, mais en fait, c'est canon.
Mais t'es pas mal.
En fait, au final, la prochaine fois, je ne ferai plus que des interviews sur le ballon. Mais en tout cas, merci. Tu sais
merci
que t'as un dernier petit point, c'est pour terminer l'interview. J'aime ce passage, l'idée de ce passage de relais. Et donc, j'aime bien demander à mes invités de m'envoyer à la découverte d'un autre métier, soit que tu connais, soit qui t'inspire, peu importe. Ouais. Est-ce que tu as pu y réfléchir?
J'y ai réfléchi, effectivement. Alors, étant fan d'aérospatial, aéronautique, alors je sais que tu as déjà fait une interview dans le domaine, mais moi, je te lance le défi de partir à la rencontre. Alors, j'en ai même un autre qui ressort, mais un pilote de ligne.
Ah ouais, ça, c'est classe.
Ou un astronaute.
Ah oui, astronaute, hein, oui. Tu es le deuxième à me le demander. Ah, okay, mais là, okay. L'astronaute, c'est chaud. Hein.
Bah écoute, je pense que tu peux en trouver.
Ça se tente. Ouais, bah, j'ai des contacts.
Et je pense qu'il y a des choses intéressantes. Mais en tout cas, dans les deux cas, il y a des trucs vachement intéressants à poser. Donc voilà, je te mets au défi et puis tu penseras à moi si t'arrives à en choper. Hein.
ne t'inquiète pas, en général, je refais la boucle. Et ouais. D'ailleurs, j'aime bien demander à mes précédents invités d'avoir des questions à leur poser aussi.
Ok, ah ouais,
voilà,
super.
Donc passage de relais, comme ça, je te ferai un peu bosser parce qu'il ne faut pas rigoler. Un grand merci. Stuart, de t'être prêté à cet exercice. Kylian, si tu veux dire un petit mot aussi à Stuart.
Bah, merci Stuart d'avoir consacré du temps. Merci Julie pour justement cette invitation. C'était un très, très, très agréable moment.
Et bah, pareillement, un peu à la one again parce que je vous expliquerai tous les principes du montage, enfin bref. Puisque t'as distance, t'es à fond romeu, mais c'était super sympa. Tu n'étais pas l'ado que je recherchais, mais t'étais le parfait candidat, donc
parfait
merci
candidat.
Beaucoup.
Merci beaucoup, Kylian, en tout cas, pour tes questions et ta participation, et merci à toi, Julie, pour toutes ces questions.
Allez, un grand merci, Stuart.
Merci à toi, Julie.
À très vite.
Yes.
J'espère sincèrement que ce premier épisode sur le sport de haut niveau avec Stuart vous aura autant passionné que moi. Pour rentrer en contact avec Stuart, rendez-vous sur son compte Instagram, Stuart Dutambi, ou sur le site de son studio d'entraînement sportif individuel, ateliermove.com. Si vous voulez donner un petit coup de pouce au podcast et donner de la visibilité à ce super métier, ben n'oubliez pas le commentaire sur Apple Podcast. Et puis surtout, faites du bruit s'il vous plaît. Parlez-en à votre entourage, postez sur les réseaux sociaux, parlez-en à votre voisin journaliste. Bref, aidez-nous à faire voyager le podcast. À dimanche prochain pour la découverte d'un nouveau métier. Et d'ici là, je vous souhaite une très très belle semaine à tous.